Bienvenue à tout le monde à cette grande première de Connaître la suite. Ici Steve Martineau et Danny Quirion. Et notre engagement est de vous livrer une émission qui aura pour but de vous informer et de faire l'analyse de tout ce qui entoure la liberté et la responsabilité individuelle. Bonne écoute! Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette grande première de Connaître la suite. Ça me fait plaisir de vous accueillir en ce vendredi 4 février 2011. Et oui, Connaître la suite, un long projet qui est mené depuis, je dirais, plusieurs semaines. Et ce soir, c'est la grande première, donc on accouche, comme on dit, du produit fini. Donc, je remercie tous ceux qui sont à l'écoute j'aimerais vous accueillir parmi ce projet-là, qui est une grande aventure, qui débute ce soir, mais qui va être évidemment à l'antenne de XM 172 pour toute la saison printanière. Donc, on va être avec vous jusqu'au mois de juin. Donc, au cours des prochaines semaines, évidemment, on va vous livrer de nombreuses émissions avec beaucoup de contenu. Et je tiens à vous dire d'ores et déjà que ce soir, le recherchiste va être absent. Donc, Danny Quirion, que j'ai présenté en début d'émission, on va lui souhaiter un bon prompt rétablissement parce que, il y a eu un petit virus cette semaine. Il va être des nôtres la semaine prochaine. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, on ira dans le détail pour parler avec vous d'où provient Connaître la suite, d'où est parti ce projet-là. Donc, je me garde ces discussions-là pour le faire avec Danny la semaine prochaine. Et tout d'abord, je vous invite sur le site internet au www.connaitrelasuite.com. À chaque semaine, on va annoncer évidemment nos invités, les chroniques et beaucoup de détails sur l'émission. Vous avez aussi l'adresse email qui est disponible sur la page. Je vous la donne quand même ce soir. Si jamais vous avez des commentaires à nous apporter ou des questions pour nos invités, vous avez juste à envoyer tout ça à info@connaitrelasuite.com. Sur le site internet, il y a une section qui est une section vigilance citoyenne où on met l'emphase sur des nouvelles qui nous ont frappés dans l'actualité québécoise. Et justement, parlant de vigilance citoyenne, pour cette grande première, nous avons avec nous Claire Joly, qui est directrice générale de la Ligue des contribuables du Québec.
Oui, bonsoir.
Merci d'être avec nous pour cette grande première.
Mais ça me fait plaisir. Tout l'honneur est pour moi.
Tout d'abord, Claire, est-ce qu'on peut revenir sur, pour le bénéfice de nos auditeurs, que tu peux nous dire c'est quoi en fait la Ligue des contribuables du Québec?
Bien sûr, on est un organisme sans but lucratif et non partisan. Et justement, là, un groupe de vigilance, on va informer les citoyens sur la manière dont leur argent est dépensé. On va dénoncer le gaspillage. On va demander un allègement du fardeau fiscal. fiscale. Et en fait, là, on est un peu un chien de garde là pour garder l'œil sur les politiciens. Donc, en quelques mots, c'est ça la Ligue des contribuables.
Alors, on invite aussi les gens à consulter votre site Internet là, qui est au www.soscontribuable.ca parce que d'ailleurs, il y a beaucoup d'informations et ce qu'on va discuter ce soir va se retrouver sur le site Internet.
Oui, probablement dans 10 jours. Fait que vous avez vraiment une super exclusivité.
Ben, merci beaucoup. Soit dit en passant, c'est ça, on va parler ce soir des prix Glouton, qui sont en fait rendus à leur 4e année d'attribution.
Oui, c'est ça. On le fait chaque année. Les prix Glouton, en fait, c'est un peu une parodie des Oscars. C'est pour ça qu'on fait ça en février. C'est pour honorer les gens qui ont fait mal à notre portefeuille, les gens qui se sont particulièrement distingués en dilapidant l'argent public. Et voilà. Et c'est ce qu'on fait. On remet des prix chaque année. Un glouton d'or, un glouton d'argent et un glouton de bronze. Sous le signe de l'humour, parce que nos prix sont pas toujours drôles, mais c'est un moyen de souligner ce qui s'est passé dans l'année et pour pas non plus là qu'on oublie trop vite, là, parce qu'évidemment, dans l'actualité, ça va très vite. Puis on a souvent... Donc, on veut faire un rappel, en fait, aussi, là. Et parfois même des suivis.
Ben c'est ça parce que je regardais les premières éditions et je pense qu'aujourd'hui on a un sujet d'actualité par rapport à la lieutenant-gouverneur et c'était parmi justement les prix Glouton de mars 2008 donc la lieutenant-gouverneur qui s'était mérité le glouton d'or. Fait que l'actualité on voit perdure quand même par rapport au prix Glouton.
Oui, dans son cas malheureusement ça va pas très vite. Oui, c'est ça, mais en fait, elle a été la gagnante de notre toute première édition des prix Glouton. Et elle a même été la gagnante du Teddy, qui est remis par une association canadienne qui a la même mission que nous et avec qui on collabore parfois, là, la Canadian Taxpayer Federation, qui lui ont décerné un grand prix la même année. Donc, elle est entrée au panthéon du gaspillage canadien, en plus d'être au panthéon du gaspillage québécois.
Et quand
c'est quelque chose, cette histoire-là.
Oui, effectivement. Et quand on parle des prix Glouton, or, argent et bronze, à ce moment-là, c'est qu'est-ce qui détermine le niveau? C'est le niveau de gaspillage engendré ou de quelle façon vous sélectionnez les critères pour les trois différents niveaux?
Bien, les finalistes, ça va être souvent... ceux dont on a entendu le plus parler, ceux dont nos membres nous ont le plus parlé, ce qui a fait le plus jaser. Et évidemment, quand il y a, disons, des candidats équivalents, si on veut, on va habituellement donner la première place à quelque chose là, qui a beaucoup d'ampleur financière. Mais pas toujours. Là, Lise Thibault, c'était pas une énorme dépense là en termes d'argent, une énorme fraude même si on peut dire. Mais c'était tellement choquant que on lui a donné le glouton d'or. Mais c'est un petit peu ça. On a tendance à donner 1, 2, 3 là en tenant compte du montant en cause.
Parce que sans retourner dans le passé, mais si on regarde au niveau des gloutons d'or, puis je vais un peu les mentionner ici en onde, c'est ça, dans la première édition, on vient de parler là, justement de l'ancien lieutenant-gouverneur Lise Thibault qui avait eu le glouton d'or. Pour ce qui est de l'année 2008, on parle des ex-dirigeants, donc les trois ex-dirigeants de l'UQAM. Donc, il avait géré les deux projets immobiliers là avec... on avait mentionné de votre côté avec... Et je suis d'accord, beaucoup d'insouciance et de négligence et qui ont mené, effectivement, l'institution au bord de la faillite. On se souviendra qu'il était sur...
Oui, qu'on a renqué, le gouvernement du Québec a renfloué, si on veut. Hein.
Oui.
Donc, voilà.
et l'an dernier, c'était la Caisse de dépôt de placement et de placement du Québec là qui avait des pertes records de 40 milliards.
C'est ça, c'était un choix facile.
Ouais, c'était...
Je pense que c'était assez unanime.
Et pour cette année, est-ce que c'était aussi facile? Est-ce qu'il y avait des cas vraiment qui se démarquaient par rapport aux autres? Ou c'est toujours un peu déchirant de faire des choix?
Oui, il y en a eu. Il y en a qui ont vraiment, vraiment fait jaser plus, je dirais. Qui ont vraiment plus... fâcher les gens, là, faire réagir les gens. Cette année, ça n'a pas été trop difficile. Mais je vais vous laisser juger quand je vais dévoiler ça.
Au niveau justement de la façon que vous déterminez, tout à l'heure tu parlais des membres, parce qu'il faut dire aussi que la Ligue des contribuables, on peut devenir membre de la Ligue?
Ben oui, sympathisant en fait, là. On accepte les dons.
Parce qu'en fait, vous êtes une OBNL non subventionnée.
C'est ça. On n'est pas subventionné du tout parce que ça nous placerait en conflit d'intérêts avec le gouvernement. Donc, on veut rien savoir de ça. On n'en veut même pas. Mais évidemment, ça nous rend la vie plus difficile parce que pour un organisme sans but lucratif, là, on est tous dans le même bateau. C'est pas seulement nous. C'est assez difficile de survivre financièrement. Mais on a beaucoup d'aide. On a des bénévoles. Donc, on y arrive assez bien.
OK. Et là, c'est sur... vous fonctionnez avec un vote pour déterminer les gagnants?
Pas vraiment un vote. On y va, on regarde, on se fait une liste toute l'année. On garde un calepin.
OK.
On note les événements. Puis à la fin de l'année, habituellement, il y a vraiment des choses qui se démarquent. Là, on voit de quoi les gens nous parlent. On voit de ce dont il a été le plus question dans les journaux et tout ça. Et souvent, au mois de mars, là, on a ça va être le glouton d'or, là. On le sait déjà. Cette année, mais bon, évidemment, cette année, j'avais beaucoup de gloutons du fédéral.
Ah oui?
Et j'en avais, oui. Et je trouvais que j'en avais trop. J'en voulais pas deux. Donc voilà. Donc il peut y avoir des petites considérations comme ça, là, mais c'est des événements qui sont équivalents, là, si on veut.
Et justement, le rayonnement des prix gloutons, est-ce que on se limite au Québec et au Canada, j'imagine?
Oui, c'est ça. Mais non, ça peut être les municipalités aussi. Sauf que pour nous, comme on est une association qui donne des entrevues partout en province,
ben,
là, on n'est pas on va un peu peut-être éviter les choses trop locales, mais quand il y a quelque chose là qui s'impose, on va pas hésiter, comme cette année. On en a un peu plus local.
Donc, si on y va avec le dévoilement, Claire...
C'est ça.
Donc,
je voulais rien dire.
J'ai pas de roulement de tambour, mais allons-y d'abord avec le glouton de bronze.
Bon, le glouton de bronze, ça, c'en est un qui s'est imposé de lui-même. On l'a accordé à l'affaire Clotaire-Rapaille.
Ah oui?
Oui, on n'a pas pu résister.
Donc, le maire, la bombe qui même à travers les gloutons, va tirer un peu de crédit.
Ben oui. Par contre, il a reconnu son erreur.
Oui.
Ce qui n'est pas le cas de lui, Thibault, ni des gens de l'UQAM non plus. Donc, évidemment, il n'était pas question pour nous de lui donner le glouton d'or. Là, quand même, on va tourner la page, mais je veux dire, c'est une histoire savoureuse, n'est-ce pas? Gourou du marketing qui a eu le temps de nous révéler que les gens de Québec, parce qu'ils étaient accueillants, mais aimaient la radio poubelle, encore que c'est drôle des fois la définition de radio poubelle, là, que les gens de Québec avaient des tendances sadomasochistes à cause de ça, là, avant que son contrat ne soit abruptement terminé parce qu'un journaliste du Soleil, Pierre-André Normandin, a découvert qu'il avait beaucoup embelli son CV.
Oui, on se souviendra.
Donc, c'est ça, il avait été embauché pour les gens qui seraient pas... on en a entendu beaucoup parler, là, mais pour les gens qui seraient peut-être un petit peu plus éloignés de Québec. Donc, tout ça a coûté un total de 250 000 $ quand même à la ville.
Oui.
À la ville, 80 000 $ seulement, là. Et puis bon, il y avait plusieurs organismes. Donc, c'est pas seulement le maire Labeaume. Moi, disons, à Clotaire-Rapaille, le maire Labeaume et les gens qui ont été séduits par Clotaire-Rapaille, là, monsieur avait aux lunettes fumées, grand séducteur, et voilà.
Effectivement. Et je l'accorderais un peu aussi, Il y aurait un peu d'éco gagnant parce que évidemment le maire aussi a été le premier, je pense, à vendre la sauce. Et mais comme tu dis, je pense que le maire là-dessus est revenu et a fait un mea culpa et je pense que il avait pas le choix de le faire parce que cette histoire-là avait pris une ampleur sans précédent. Et comme tu mentionnes, les montants étaient quand même assez astronomiques là pour les services rendus. D'ailleurs, est-ce qu'on a les montants finaux parce qu'il y avait des clauses contractuelles? On n'a jamais eu vraiment le retour, je dirais, dans la région de Québec par rapport aux coûts finaux. Donc, ceux que tu mentionnes.
Oui, ce que moi j'ai eu, en tout cas, ce que j'ai trouvé dans mes recherches, c'était qu'il y avait en partie des honoraires. Je pense que c'était 225 000 $ d'honoraires. Et le reste des frais d'hôtel, des frais
c'est
de déplacement,
ça, les frais de voyage.
Et puis des frais, les gens aussi qui participaient là, aux séances de travail où ils se couchaient, je pense, là, ils allaient chercher les images de Québec dans leur inconscient. Là, c'était tout un truc, ça. Et tout ça ensemble, ça fait 248 000 $.
C'est quand même beaucoup d'argent pour une ville comme Québec.
Ben, c'est ça. Et puis, ce que j'ai trouvé aussi, c'est que... il y a des experts internationaux, dont un expert britannique là qui s'occupe des images de marque pour des villes et qui ne fait que ça, c'est sa spécialité depuis 20 ans, et qui dit que c'est très naïf de penser qu'on peut changer l'image de marque d'une ville et qu'en 20 ans, il n'a jamais vu une ville qui a réussi.
Ah, j'imagine.
Donc, en partant, c'était une idée. Bref, ce qu'il dit, c'est que, bon, si vous voulez avoir une image de ville technologique, vous pouvez pas la construire. Devenez une ville technologique et vous aurez cette image-là, finalement.
Effectivement.
Donc, en partant, c'était une mauvaise idée. Mais ça a été, je sais pas, peut-être pas pour les résidents de Québec, puisqu'ils assument une partie de la facture, mais je veux dire, c'était quand même assez marrant de lire, là. C'était assez rocambolesque. Donc, ça valait bien un petit glouton cette année.
OK. Et si on va au niveau du glouton d'argent à ce moment-là, si on commence avec la terre à paille, ça veut dire que la barre est quand même déjà assez haute.
La barre est haute. Bien, ça, c'est une histoire dont on a entendu parler toute l'année. C'est une histoire dont on a entendu parler pendant des mois et des mois. C'est le fameux sommet du G8 et du G20, le sommet à 1 milliard de dollars.
Oh oui, effectivement.
Oui, c'est ça. On a oublié, mais ça a duré très longtemps, pendant des mois. On trouvait toutes sortes de factures, de dépenses folles, et on en a entendu parler pendant 6 mois, beaucoup après que le sommet soit fini. Là, si je pense seulement à l'aspect économique, là, parce que bon, il y a eu toutes les arrestations aussi, là, mais bref. Donc, pour deux sommets qui ont duré 3 jours, en fait, là, le vrai chiffre final, c'est 857 millions de dollars. C'est pas rien.
Et c'est pas rien, effectivement.
Oui. 80% de cette somme-là était pour la sécurité. C'est donc 675 millions. Et c'est le sommet où on a construit, pour l'occasion, le fameux lac artificiel. Je sais pas si vous vous souvenez du lac artificiel.
Oui, qu'on a entendu parler effectivement par nos médias et qu'on a vu un peu aussi l'étendue de ce lac intérieur.
Oui, c'est ça. Bon, on parlait du lac de 2 millions, mais en fait, il a coûté seulement, ben ça c'est les chiffres du gouvernement, 57 000 $, mais il était à l'intérieur d'un centre de presse qu'on avait fait pour accueillir les journalistes étrangers qui lui a coûté 2 millions. Et bon, il y avait bon le lac artificiel et derrière, il y avait un écran géant où on projetait des
images,
des scènes, là, c'est ça, de l'endroit où se tenait le sommet, là, qui est à Huntsville, dans une région un petit peu plus
éloignée, effectivement.
Oui, éloignée de l'Ontario. Et le gouvernement s'est défendu en disant que c'était pour promouvoir le tourisme. Mais bon, même les gens qui sont, parce que bon, on peut se questionner sur l'utilité, là, de ces sommets-là où en tout cas, on dirait que les chefs d'État, proprement dit, on se rencontre tous pendant 10 minutes, là, mais peu importe si on croit ou pas à ces sommets-là, il y a des gens comme l'ancien premier ministre Paul Martin qui disait, ben moi, je crois en ces sommets-là, et il a participé, mais il dit, je veux dire, c'est beaucoup trop cher. Et d'ailleurs, bon, c'est quelque chose dont on a parlé. Moi, j'ai vu que dans les médias français, il y en avait beaucoup parlé. Donc, pour l'image du Canada, là, avec le lac artificiel, les canaux, les chaises de jardin puis les paysages, là, ça n'a pas trop marché parce que promouvoir l'image du Canada, ce dont on a parlé ailleurs, c'est le coût du sommet. Et d'ailleurs, ça va être en France l'année prochaine. Et Nicolas Sarkozy, en plein sommet ici, a été obligé de promettre aux médias français que ses sommets à lui allaient coûter 10 fois moins cher que le nôtre.
Oui, je me souviens de ça, effectivement, parce que il y avait beaucoup de journalistes, justement, européens qui avaient rapporté la controverse ici au Canada. Mais dis-moi, Claire, je ne sais pas si tu as vraiment ce niveau d'information-là, mais est-ce qu'on a conservé ces infrastructures-là? Parce que, justement, le centre qui avait été créé, là, de 2 millions de dollars, est-ce que c'est des legs qui ont été...
Je pense. Ben le lac artificiel, non. Je pense que l'édifice dans lequel on avait fait le centre de médias existe encore, mais il y a toutes sortes de... à Huntsville, où a eu lieu le sommet du G8, parce que là, on a déménagé à la dernière minute le sommet du G20 à Toronto.
Mais oui, effectivement.
Bon, cette ville-là, on a été obligé de faire toutes sortes d'infrastructures très modernes, a dépensé beaucoup d'argent pour pouvoir recevoir les gens du sommet là, au niveau de la sécurité, des communications et tout ça. Là, c'est devenu très high-tech. Mais je veux dire, il y a eu toutes sortes de dépenses folles comme 380 000 pour remettre à neuf un bateau à vapeur qui n'était pas terminé d'ailleurs quand le sommet a commencé. On a construit ou rénové, mais je pense construit un belvédère à 100 000 dollars qui était même pas près de l'endroit de la réunion là à Huntsville. Une pierre de bienvenue, je pense, en tout cas plusieurs millions de dollars, une pierre de bienvenue en gravite qui est à 80 km vu de la Réunion, toutes sortes de trucs comme ça. Et si vous avez le temps, j'ai une dernière histoire assez amusante, la table, parce que pour le G20, il faut une grande table ronde, assez grande pour asseoir, en fait, je pense, oui, 66 personnes. Le gouvernement canadien a fait une bonne affaire parce que ils l'ont acheté d'occasion.
Ah oui.
Il y avait eu un sommet à Pittsburgh l'année d'avant. Et donc, ils ont téléphoné au gouvernement américain. Ils ont dit, est-ce que vous nous prêtez votre table que vous avez utilisée pour le G20? On va la réutiliser. Ça a quand même coûté 97 000 $ cette table-là. Après la réunion, le gouvernement canadien a un site de mise aux enchères. Et il va mettre toutes sortes de choses qu'il n'utilise plus. D'ailleurs, une bonne idée quand même. Là, on voit qu'il y a quand même un esprit de on veut récupérer de l'argent. Et il n'y a pas eu, c'est ça, c'est un site aux enchères un peu comme eBay, là, du gouvernement canadien. Et il n'y a pas eu une seule enchère. Il n'y a personne qui veut de cette table-là. Ça prend deux remorques de 16 mètres pour la déplacer. Donc voilà, on est pris avec la fameuse table à 97 $, mais ça j'ai trouvé ça assez amusant, triste mais amusant. Donc voilà une dépense assez extravagante qui a soulevé beaucoup de questions parce qu'ailleurs dans le monde ça n'a pas atteint ces chiffres-là.
Non, effectivement.
Loin de là.
Oui, on s'est démarqué, disons, à ce point-là, parce que c'est quelque chose d'assez inconcevable quand même pour monsieur, madame, tout le monde, quand même, quand on voit ces chiffres-là qui représentent, là, on peut s'attendre, oui, qu'on dépense des dizaines, voire peut-être des centaines de millions, mais jamais frôler le milliard de dollars pour deux événements, là, qui, somme toute, sont quand même limités à un certain nombre de restreintes personnes, je dirais, qui peuvent se rencontrer aussi dans d'autres cadres. Donc,
Oui, en tout cas, mais c'est ça. Ça aurait dû être peut-être quelques centaines de millions, qui étaient déjà beaucoup. Un milliard, c'est... oui.
C'est beaucoup trop.
Donc, on n'a pas le luxe, là, comme ça, un milliard flambé pour 4 jours, là, c'est... Non, ça valait un glouton, ça aussi.
Et... Le regagnant du glouton d'or?
C'est Raymond Bachand lui-même en personne.
Raymond Bachand, ah oui!
L'ogre du gouvernement, le grand chef du gouvernement, le piranha des portefeuilles pour son dernier budget.
Que la Ligue vous avez contesté, hein? Je pense que vous avez fait beaucoup de présence.
Ben là, oui. C'est le résultat de ce budget-là, en fait, là, concrètement. Où il y a eu plein de hausses de taxes, la nouvelle impôt santé, tout ça, là. Quand toutes les mesures annoncées dans ce budget-là vont être entrées en vigueur dans 2 ans, une famille moyenne, 2 revenus, 2 enfants, qui va gagner 60 000 comme revenu familial, là, ou 80, ce qui n'est pas énorme, hein,
c'est non,
vraiment
non.
Classe moyenne, va payer 1 000 $ de plus. que présent, ben pas présentement, disons qu'au 31 décembre 2010. 1000 $ là. Tu sais, quand on a on fait 60 000 de revenus familiales avec deux enfants, où on va trouver le 1000 $ de plus? C'est complètement, là, c'est vraiment, c'est égorger les gens, complètement déconnecter de la réalité. Pendant ce temps-là, on sait toujours pas, c'est quoi, là, le fameux plan 60-40, là, des dépenses, les compressions de dépenses, ils sont où exactement? On les a pas encore vus. Ils avaient des années de la récession, ils la voyaient venir là quand même, mais ils ont rien fait avant cette année sauf augmenter les taxes. Et là, ce 1000 $ là, bon, premièrement, c'est les chiffres du gouvernement, ça ne comprend que les hausses de la TVQ, la taxe sur l'essence, la hausse annoncée dans la taxe sur l'essence et la contribution santé que nous on appelle l'impôt santé. Ça comprend pas là, cette année, il y a eu une hausse d'immatriculation l'assurance médicaments, l'assurance parentale, on s'attend aussi que le régime des rentes de retraite augmente. Les tarifs d'Hydro-Québec vont augmenter, vont commencer à augmenter en 2015, je pense. Les frais de scolarité aussi. En tout cas, on n'est pas nécessairement contre un recours plus courant aux tarifs, là, mais pas dans les conditions actuelles. Là. Pas comme ça. Là.
Ça m'amène vers une question, Claire. Est-ce que la Ligue des contribuables du Québec va être présent aux consultations prébudgétaires à ce moment-là? Si vous avez donné le glouton d'or donc au ministre, est-ce que c'est parce que vous voulez peut-être accentuer une présence lors de ces consultations?
Non.
Non?
J'ai déjà... On a fait des consultations prébudgétaires fédérales.
Okay.
Avec le ministre Flaherty, on l'a déjà fait ça. On a voulu, la dernière année de Monique Jérôme Forget, il y a 2 ans, on a essayé de se faire inviter, mais il voulait pas nous inviter.
Ah oh, non?
Et non. Et puis, on a donc, avec l'expérience qu'on a eue au fédéral, on s'est rendu compte que...
C'est un coup d'épée dans l'eau.
Ça donnait pas grand-chose. On avait l'impression plutôt que... c'était un exercice peut-être qui avait 2 avantages pour eux. Un, nous faire croire qu'ils nous écoutent, donner l'impression qu'ils consultent. Et ben c'est ça finalement. Et donc on a trouvé qu'on a été très déçus de ça, de nos expériences. Si on est invité, surtout au Québec, on va certainement y aller, mais on fera pas de démarche là nécessairement pour être invité. On a vraiment l'impression là que c'est un exercice de relations publiques plus que d'autres choses, comme la consultation sur Internet là.
Oui, effectivement. Mais à ce moment-là, parce que ce glouton d'or-là, il est d'actualité. Justement, on parle de mesures budgétaires qui vont être mises en place là, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Ça veut donc dire qu'on pourrait se retrouver avec un prix glouton d'or l'an prochain aussi pour
permanent,
parce que je pense que ces mesures-là, en plus, il y en a beaucoup qui n'ont pas toujours été annoncées non plus. C'est toujours un peu ambigu aussi, les annonces budgétaires. On les découvre, je dirais, au fur et à mesure qu'ils sont mis en place. C'est quand même un prix, justement, qui peut perdurer dans le temps et... amener quand même un niveau pessimiste au niveau de l'électorat. Je me dis, la Ligue des contribuables, à ce moment-là, n'est pas invitée. S'ils veulent faire un coup de relations publiques, il y aurait intérêt à vous inviter?
Ben oui, peut-être. Mais bon, il y a toutes sortes de groupes de pression qui sont là. Bon, par exemple, tous les syndicats, tous les groupes de patronat sont consultés. Tu sais, les contribuables en général... ça les a pas trop intéressés par le passé, mais nous, on préfère rester par l'extérieur.
OK.
Il y a eu tout le... On s'est rendu compte qu'il y avait un pouvoir quand même à l'extérieur. Quand il y a eu le Québec dans le rouge, avant Québec dans le rouge, moi, je me rappelle, je donnais des entrevues puis je disais « couper les dépenses ». Tout ce qu'on entendait dans les médias, c'était « ben là, le gouvernement n'a pas le choix, il faut que les gens comprennent que... » Puis bon, il n'y a rien à couper. Là, par les médias québécois qui ont fait Québec dans le rouge, ben là, les gens ont pu en commencer à s'exprimer. Il y avait beaucoup de consultations des gens. Puis là, tout d'un coup, ça a changé. Oh, on va faire un effort sur les dépenses. Le gouvernement a carrément changé d'idée quand, après deux séries sur le Québec dans le rouge, ils ont vu à quel point les gens étaient en colère, puis à quel point les gens voulaient qu'il y ait un effort du côté des dépenses, là, parce que, bon, tu sais, on est égorgés. Puis ils ont comme reculé, en tout cas au moins dans le discours. Donc, je pense qu'on a évité le pire quand même. Donc, il y a quelque chose à faire avec la pression populaire. Il y a des groupes de pression qui ont leur stratégie. Nous, on fait ça. Puis, donc, avec différentes stratégies, les groupes qui ont les mêmes, comment je pourrais dire, les mêmes objectifs.
Oui, c'est ça, les mêmes buts.
Ben, on va finir par j'espère, tirer de notre côté, si on veut, là, influencer à notre manière le gouvernement, mais ça, c'est notre choix, c'est notre méthode et notre choix à nous.
Oui, je comprends. Et par rapport à la visibilité des gloutons, est-ce que c'est quelque chose qui, tantôt tu nous parlais du Canadian Taxpayer, est-ce que c'est quelque chose qui est repris justement conjointement par rapport au Teddy?
On l'a déjà fait, je sais pas si cette année on le fait, là on prépare plutôt avec eux une tournée pancanadienne sur la dette. Okay. Ils ont une immense horloge de la dette qui va traverser le Canada. Et là, c'est en préparation. Là, ils cherchent du financement, donc peut-être ça va se faire, peut-être ça va pas se faire. Là, mais ça serait notre projet de collaboration avec eux. Mais normalement, les gloutons, puis pour le Canadian Taxpayer Federation aussi, c'est la plus grosse, c'est la plus grosse couverture média qu'on va avoir dans l'année, normalement. L'année dernière, on n'en a pas eu. Ça dépend des circonstances aussi. C'était pendant le tremblement de terre en Haïti.
OK, parce que de mémoire, c'est ça.
Des fois, il y a autre chose dans les médias où, bon, il peut arriver toutes sortes de choses là qui font que... Mais...
Oui, parce que de mémoire, il me semble avoir vu justement les grands quotidiens avoir repris les gloutons et les avoir affichés dans leur page. Donc, en espérant que cette année, ils
oui,
le font.
Oui, oui, oui. Non, non, c'est arrivé par les années passantes, une très belle couverture. Mais là, justement, pour le glouton d'or, ce qu'on voulait faire en particulier, ben c'est dire au gouvernement, là, on n'a pas oublié, là, parce que là, c'est le supplice du compte-gouttes. Tu sais, l'assurance médicaments le 1er juillet, puis 1% de TVQ le 1er janvier, puis le deuxième l'année prochaine. Même chose, là, c'est graduel, la taxe sur l'essence. Là, c'est pas parce que ils veulent nous donner une chance, là, c'est parce que c'est moins visible, puis ça suscite moins la colère quand c'est graduel. Là.
Oui, effectivement, et on met tout de côté aussi les hausses de tarifs, exemple de la SAQ, qui en janvier, toutes les structures, je dirais, les organisations parapubliques, là, qui, eux aussi, sont allés à cœur joie avec des hausses de tarifs.
Les taxes, on peut parler aussi des taxes municipales, oui. Des taxes scolaires qui ont tendance à augmenter de façon dramatique. Donc, ça sera pas fini. Ils nous ont dit que c'était supposément à cause de la récession, puis qu'ils n'avaient pas le choix, mais c'est drôle, là, parce qu'il n'y a pas de plan pour revenir à notre fardeau fiscal avant la récession. On va rester toujours avec notre nouveau fardeau fiscal, et ça, je veux dire, pour nous, c'est assez évident, c'était qu'on était en déficit chronique depuis le début des années 2000. On n'avait pas adopté les normes comptables reconnues dans le reste du Canada. Donc, c'était plus ou moins caché, mais année après année, le vérificateur, là, bon, il a calculé justement que sur 10 ans, un peu moins de 10 ans, on était 5 milliards de déficit, alors que les deux, de deux partis, là, c'est pas seulement les libéraux, les péquistes aussi, tous les gouvernements nous disaient qu'on avait un budget équilibré, alors que c'était pas le cas.
Ben, effectivement, oui.
Et donc, on est en train de faire un rattrapage. Dans les autres provinces, pendant qu'on a eu, tu sais, un beau boom économique pendant les années 2000, on en a profité pour assainir les finances publiques. Nous, on a continué à dépenser au Québec. Quand est arrivée la récession, pas de marge de manœuvre. Là, les déficits, on augmente, mais là, ils veulent continuer avec tous les programmes qu'ils ont créés pendant ces années-là, puis tout ça. Mais ce n'est pas viable, parce qu'à un moment donné, quand on taxe trop, ben on taxe déjà trop, on fait mal à l'économie. Fait que là, on est en train de se tirer dans le pied, là. Fait que c'est pas seulement des gens qui aiment pas le gouvernement, puis qui aiment pas payer les impôts, là. Tu sais, non, c'est dommageable. On n'est pas plus pauvre que la plupart des autres provinces canadiennes, si c'est pas toutes les provinces canadiennes, parce que maintenant Terre-Neuve est plus riche, la cause du pétrole, pour rien, là. Mm. C'est parce qu'on a des taux de taxation. Comment qu'on va sortir de ça? Comment on va payer la dette? On va, en tout cas, la réduire, la dette, si on est tellement taxé qu'on tue l'activité économique, là. Je veux dire, ça n'a aucun sens.
Oui, et c'est
ça
pas...
Ça dépasse, là.
Et c'est
ça
pas normal. Et c'est pas nos moratoires sur les ressources naturelles qui vont nous aider dans cette cause-là, parce que justement, on manque un peu d'imagination. La seule source de revenus qu'on trouve, c'est toujours d'augmenter la perception des taxes et des impôts. Donc, ultimement, c'est voué carrément à un anéantissement complet là, du système.
Non, c'est ça. Là, on est vraiment dans un cul-de-sac. Là, on est chanceux parce que les intérêts sur la dette sont bas.
Oui.
Mais c'est quand même 6 milliards par année. Puis bon, tous les gens disent que c'est mauvais pour les générations futures, mais c'est pas juste les générations futures, là. Ça nous fait mal aujourd'hui. Chaque année, il y a 6 milliards de notre argent qui part dans le trou de la dette. C'est 6 milliards qui est pas dans nos poches pour consommer, faire rouler l'économie, épargner. C'est pas ces 6 milliards que les entreprises ont pas pour créer des emplois. Donc, je veux dire, c'est un boulet déjà, la dette, pour tout le monde, là. Et ça va être un... Il va falloir, en tout cas, y penser aussi. Mais disons que le bulletin d'or, c'est aussi un message. On veut dire aux gens, vous avez raison de pas être content, là, parce que, premièrement, il y a des gens qui sont vraiment pris à la gorge, là, 1 000 $ de plus, là, dans un budget, c'est pas...
C'est les camps d'été qui vont en payer les prix. C'est les petites sorties. Le 1 000 $, c'est comme on dit en bon anglais, le gravy là, qu'on a, là, qui nous permet de faire des petites gâteries. Mais là, ça va être très difficile pour ces familles, effectivement, qui, comme on le disait, à 60 000 $ par année, avec deux petites voitures, un petit bungalow, c'est pas...
Oui, c'est ça. Puis bon, ils pensent qu'on est dans un monde où tout le monde peut prendre le transport en commun. Donc, bon, une taxe sur l'essence, ils augmentent ça, c'est politiquement correct, là. Mais premièrement, c'est déjà surtaxé, l'essence. Mais c'est pas vrai que tout le monde peut prendre le transport en commun, là. Tu sais, en région, il y en a pas.
Ben non,
mais même même quand on est en ville, là, les gens qui travaillent de banlieue à banlieue, pas nécessairement au centre-ville, il y en a pas toujours du transport en commun. Il y a des gens qui ont de la difficulté à marcher, des personnes âgées. La mère avec deux enfants, un dans une poussette, puis l'autre de 5 ans, est-ce qu'elle va prendre l'autobus pour aller faire son épicerie? Je sais pas. C'est impensable, là. Faut arrêter de faut arrêter de rêver en couleur non plus, là. Donc
effectivement, et quand on s'attarde aussi à ces transports en commun, on voit qu'il y a largement du financement aussi du public, parce que ils ont de la misère, évidemment, à joindre les deux bouts, là. Donc que ce soit
En tout cas, ici, l'Agence métropolitaine de transport à Montréal, c'est des experts dans les dépassements de coûts, là, puis les gros dépassements de coûts aussi.
Ben c'est ça. Donc c'est là où c'est pas rassurant. Quand on regarde différents modèles, pour avoir voyagé un peu en Europe, on voit que là-bas le transport en commun est capable aussi de vivre par soi-même. Mais ici au Québec, étant donné la distance, évidemment, et la superficie des secteurs, la popularité, la démographie, effectivement, dans certaines régions, c'est impensable, là, même.
C'est ça. Mais moi, ce que je trouve grave aussi, c'est qu'à un moment donné, à des taux comme ça, ça devient une barrière au travail. Les gens qui là, peut-être, restent à la maison, ont du bien-être social, puis là, ben là, travailler à 15 $ de l'heure, bon, OK, je veux dire, ça serait un bon début, travailler à 15 $ de l'heure, mais là, faut s'habiller, faut payer l'essence, faut payer l'entretien de l'auto, faut payer, je veux dire, c'est pas encourageant, là. Il y a ça aussi, là. Les gens qui ont des petits revenus, ça les encourage pas non plus à travailler. Il y a toutes sortes de répercussions. Puis en plus, ben, comme on n'est pas prospère parce qu'on est surtaxé, ben, on a des petits emplois qui sont pas très bien rémunérés.
Oui.
À un moment donné, quand il y a eu le boom en Alberta, là, ben, le Tim Hortons, là, il donnait des salaires, ou le McDonald's, là, de 17-18 $ de l'heure. Par exemple, à Noël, dans les endroits qui ont des booms, sont obligés de fermer le 21 au soir parce qu'ils n'ont pas de main-d'œuvre. Là, les gens ont des meilleurs emplois.
Ben oui, effectivement.
Et ça passe par la prospérité économique aussi, la prospérité individuelle, puis les gens aussi qui ont des faibles revenus, comment les aider? Ben, en leur offrant des emplois de qualité. C'est peut-être pas intéressant de travailler à 17 $ au McDonald's, mais moi, je pense que ça ferait un bon niveau de vie quand même, là.
Oui, oui, oui.
pour les gens qui n'ont rien d'autre, là, donc c'est au moins ça, là. Tu sais, je veux dire, on peut vivre très bien quand même. On peut se débrouiller avec 17 $ de l'heure, même si c'est un emploi au McDonald's. Il n'y a rien de d'indigne là-dedans non plus. Là, on gagne sa vie.
Oui, parce que dans les libertés individuelles, justement, la liberté financière en est une assez importante. Sinon, quand on vit au crochet comme ça des programmes ou des systèmes qui sont mis en place par l'État, il faut s'en sortir. Et la seule façon, c'est d'avoir un pouvoir d'achat et un pouvoir, justement, qui nous permet de se libérer un peu de ces charges-là qui deviennent énormes. Merci beaucoup, Claire.
Ça m'a fait plaisir.
Et oui, ben merci beaucoup. Et on invite les gens à suivre évidemment la Ligue des contribuables du Québec à l'adresse soscontribuables avec un S évidemment .ca. Et prochainement, ben on surveille évidemment vos annonces concernant les prix gloutons. Et merci de la primeur.
Ben oui. Alors ben merci à vous puis félicitations pour votre première puis bonne chance à votre émission.
Et merci beaucoup et ben sur ce bonne soirée.
Merci, au revoir.
Au revoir. Donc, c'était Claire Joly, directrice générale de la Ligue des contribuables du Québec. Donc, je vous invite sérieusement à consulter le site Internet. Beaucoup d'informations et me semble avoir vu dans le dernier communiqué envoyé. D'ailleurs, je vous invite à vous inscrire à l'infolettre de la Ligue des contribuables du Québec et vous allez avoir justement les informations sur ce qui s'en vient. Et me semble avoir vu qu'une mise à jour là, imminente s'en vient au niveau du site Internet. Donc, sur ça, on va faire une première pause pour cette grande première de connaître la suite. De l'autre côté, on a un nouveau collaborateur. C'est en fait un nouveau collaborateur parce qu'évidemment, c'est la première ce soir. Donc, on va parler avec Jonathan Gagnon. Donc, on se retrouve de l'autre côté. Vous êtes sur les ondes de XM 172 et du radiochoc.fm.
I won't.
le premier stretch est fait. Tout est lancé. Ça va bien, tout est sous contrôle. Grosse salutation, évidemment, à Danny. Il va être avec nous la semaine prochaine. Donc, tel qu'annoncé tout à l'heure, on va s'entretenir avec Jonathan Gagnon. C'est la première fois que je parle à Jonathan. Donc, c'est justement notre ami Danny qui nous a mis en lien avec lui. Je vous le décris un peu, bachelier en relations internationales de l'UQAM, passionné de l'Allemagne et de la Scandinavie. Donc, il parle 4 langues et peut en lire 6, dont le danois et l'irlandais. Il s'informe directement aux sources lorsqu'on parle des pays nordiques européens. Il tient un blog francophone, donc je vous invite à aller le consulter, qui a pour nom « Trop penser, ça donne un blog » où il traduit en français beaucoup de trucs politiques sur ces pays. Alors, on l'accueille à l'instant et d'ailleurs, il y a un Twitter pour le rejoindre, c'est le DTZB. Donc, bonsoir Jonathan.
Bonsoir, Gouquevel.
Oui. Ça, hey, merci beaucoup d'accepter comme ça, de nous, ben, pas de nous dépanner, mais évidemment, on a dû un peu revoir le contenu de l'émission avec l'absence de Danny. Donc, je te remercie.
Ben, ça fait plaisir.
Donc, le mythe scandinave ou comment un système politique peut plaire autant à Léopold Lauzon qu'à Nathalie Elgrabli. Donc, parle-nous un peu de la Suède. Sa population, son système politique, ainsi de suite?
Alors, la Suède, alors, c'est une monarchie constitutionnelle. Donc, il y a un roi, il s'appelle Carl Gustaf. Donc, c'est finalement, c'est un peu le même principe que le Canada. Alors, vous avez un parlement, le Riksdag, à Stockholm, de 369 sièges, élu au système proportionnel. On a un pays de 9 millions d'habitants, qui a un climat nordique, donc, d'un point de vue, là, ça ressemble au Québec. Donc, on a de l'industrie, l'industrie du fer dans le nord, par exemple. On a beaucoup d'industries forestières. Culturellement, c'est nordique. Donc, on voit beaucoup de liens avec le Québec. Donc, c'est encore plus intéressant, je pense, de se pencher là-dessus.
Donc, c'est un bon comparable. C'est ce que tu nous dis. On parle de 9 millions de population. Donc, encore là, on se rapproche de la population du Québec. C'est sûr qu'en superficie, ce n'est pas le Québec, mais par sa position géographique, comme tu mentionnes, il y a beaucoup d'industries et beaucoup de domaines là, d'exploitation qui nous ressemblent.
C'est bien ça.
Et ben c'est ça. En fait, parle-nous des trois époques, parce que là, au 20e siècle, là-bas, on a le socialisme et le libéralisme économique en Suède. Donc, parle-nous un peu des diverses époques.
Alors, en fait, les sociaux-démocrates en Suède arrivent au pouvoir en l'année 1932. Et ça c'est capital dans la compréhension du développement du mythe. Parce que, étant donné que le Parti social-démocrate suédois va arriver au pouvoir dans une période de grande dépression, 1932, il va se créer tout un mysticisme alentour du Parti social-démocrate suédois, le SAP, pour le Parti social-démocrate des travailleurs suédois. Regardez, on nous a sorti de la crise, donc faut voter, parce que si on vote pour la droite, pour les conservateurs, là, à ce moment-là, on va retourner dans le chômage, on va retourner en grande dépression. Ça fait beaucoup partie de son mysticisme. Et le parti va rester au pouvoir, si t'enlèves là, quelques très brefs intervalles, jusqu'en 1991.
Donc, on parle quand même d'une première partie là, de son histoire où il y a eu une imposition du socialisme.
Oui. Alors, en fait, c'est qu'avant 1932, la Suède se développe là, de façon, l'industrie, tout ça. Le Parti social-démocrate suédois va beaucoup dire, et avant, là, au début du siècle, là, on était... finalement, ça ressemble beaucoup à ce qu'on entend là, des nationalistes québécois sur l'avant 1960, finalement. Que c'était la noirceur, on était pauvres, on était parmi les plus pauvres d'Europe, on était des gens qui étaient illettrés, qui n'étaient pas riches. Alors qu'en fait, quand on regarde les statistiques qui sont publiées du début du siècle, on voit que la Suède, en fait, n'a cessé de croître de 1870 à 1970. Alors, c'est-à-dire que, bien avant que les sociaux-démocrates arrivent au pouvoir, il y avait déjà une période de croissance qui était déjà bien entamée. Il y avait déjà une tradition de développement économique. Il y avait déjà, donc, les bases étaient là. L'autre chose aussi, c'est que je te parle de croissance avant les années 70. Et pourquoi ce 70? C'est parce qu'après la guerre, bon, vous savez, la Suède est restée neutre pendant la Deuxième Guerre mondiale. Alors, bon, ils ont fait beaucoup d'argent avec les nazis en vendant de l'acier et du fer aux nazis. Ça, c'est quelque chose de très controversé. Faut pas parler de ça trop aux Suédois. Mais bon, bref, la Suède, finalement, en 1945, la Suède est debout sur ses deux pattes. On est capable, donc, de commencer tout de suite la croissance. Là, finalement, ça ressemble un peu à ce qui s'est passé en Amérique du Nord. Si on peut comparer ça ainsi. Par la même occasion, les revenus qui grandissent donc de l'État à cause que l'économie grandit, ben là l'État s'en approprie de plus en plus. Et c'est vraiment à partir quand on parle du socialisme suédois là, du tout État et tout ça, c'est vraiment à partir des années 60. Et lorsqu'on va trop loin, là la Suède commence à décliner. Et ça c'est la période qui commence après les années 70. À partir des années 70, il y aura d'ailleurs un intermède de centre-droit en 1976. Là, à ce moment-là, on commence de plus en plus, il commence à avoir certaines voix discordantes. Parce que qu'est-ce qui arrive? C'est que là, l'État suédois se met à emprunter. Et aussi, on oublie. Bon, faut savoir que les.
Mais est-ce que c'est lié à des mesures particulières ou
alors
un contexte?
On commence de plus en plus à intervenir dans l'économie directement. Alors au début, on a beaucoup monté la protection sociale avec l'assurance maladie et tout ça. Mais là, à partir des années 70, on commence à investir. Alors, on commence à nationaliser des compagnies. On commence à intervenir de plus en plus dans certains secteurs. Je pense, par exemple, aux chantiers navals. On l'a appris encore hier, je pense que la Dévi va encore avoir certains de l'argent du gouvernement provincial. Ça fait des années que ça traîne. Ben, dans les pays scandinaves, on faisait ça. Alors, les gouvernements nationalisaient les chantiers navals, donc la construction de navires, et en échange, donnaient des navires gratuits aux pays du tiers-monde. Donc, finalement, qui payait les navires qui étaient donnés à l'Afrique? Hein? C'était les contribuables
suédois. Ben oui, les Suédois.
Et les contribuables suédois, eux, à partir des années 60, sont vraiment de plus en plus taxés. On le remarque aussi que le gouvernement dans les années 70, le gouvernement suédois, et même l'opposition de centre-droite dans l'intermède de 76, parce que pourquoi? Mais écoutez, hein, les partis d'opposition, ne voyant qu'il n'y avait que du discours keynésien qui plaisait aux électeurs, mais à ce moment-là, qu'est-ce qui arrivait? C'est qu'eux ont adopté le même discours. Et là, dans les années 70, la Suède, on sait que l'Europe, ça commence à chanceler parce qu'à cause des deux crises du pétrole, 73 et 78-79, même chose en Amérique un petit peu aussi. Ben là, la Suède, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'on engage des fonctionnaires parce que de cette façon-là, on peut garder le taux d'emploi assez haut, on peut garder le taux de chômage bas et donner une impression que tout va bien. Ça rappelle quelqu'un, ça, hein?
Oui. Oui, effectivement. Et je pense que c'est un modèle où on avait, je pense, tout près de doubler, je pense qu'à l'époque, le nombre de fonctionnaires, c'était assez. C'est des indicateurs assez immenses là, au niveau de ces augmentations-là d'embauche.
Et puis on parle, par exemple, au début des années 60, l'État suédois avait à peu près seulement 30% du PIB qui était en je ne vais pas me tromper de chiffre, mais on parlait que finalement, bon, dans les années, de 70 à 82, les dépenses publiques donc sont passées ont augmenté de 6% par année par rapport au PIB. Écoute, on parle qu'on a pratiquement doublé la part de l'État dans les années 50 à 60. On parle 33%, on parle de fonctionnaires. En 1983, 33% des employés suédois étaient des fonctionnaires. Et on avait et à cette époque-là, le Parlement suédois, qui était dominé par les sociodémocrates, bien sûr, a développé toutes sortes de mécanismes pour protéger l'emploi des gens. Alors, lorsqu'il y a diminution de l'activité économique, oups, là, on n'était plus capable de bouger, de licencier ou tout ça. On parlait aussi étant donné que la manière dont les salaires étaient négociés par secteur, bon, ça peut avoir un certain positif, sauf que c'était tellement inflexible que finalement, tout le monde avait les mêmes hausses et baisses de salaire en même temps. Donc, ben, évidemment que ça diminue la motivation des gens à performer plus au travail. Et évidemment, ça a des impacts sur la productivité.
Et là, je pense que ça nous amène aux alentours des années 90, en 91, où là, il y avait une perte de contrôle totale.
Oui. Alors, en 91... D'abord, en 91, pour vous mettre dans le débat, ben là, la centre-droit suédois a un peu le vent dans les voiles parce que, oups, là, l'Europe de l'Est vient de tomber. Donc, allez, regardez, ça marchait pas, là. Vous voyez bien que le système, ça marche pas, là. On peut maintenant regarder par en avant vers le libéralisme. Et en 91, eh bien, tout ça fait en sorte que le Parti social-démocrate perd les élections et c'est Carl Bildt, donc le parti modéré qu'on appelle le Parti conservateur, qui remporte les élections. Mais même eux autres, hein, ils voyaient les sirènes allumées. On commençait à parler d'adhérer à l'Union européenne. On commençait, mais là, oups. En 94, les sociaux-démocrates reviennent au pouvoir. Et les sociaux-démocrates avaient passé 3 ans de l'opposition à dire « On s'en va vers le trou. Il faut absolument tout changer. » Les modérés, donc le bloc de centre-droit, les bleus, ont commencer certaines réformes, mais vraiment, c'est vraiment l'adhésion à l'Union européenne qui a tout changé en 95, parce que l'Union européenne exigeait de la libéralisation de nombreux secteurs de l'économie, donc les Suédois n'ont pas eu le choix. Mais aussi, il y a eu un rapport de l'OCDE en 94, en décembre 94. Ce rapport-là est dévastateur. Alors, il dit que l'endettement de la Suède, si rien n'est fait, en 2000 atteindra 128% du PIB. Et là, évidemment, oups, là, ça marche pas. Parce que même les sociaux-démocrates, hein, on avait un gros déficit, une grosse dette, mais c'était évidemment que pas tout le monde était confortable avec ça, parce qu'évidemment, il faut la payer. Hein. Et donc là, il y a vraiment eu, là, ça a été le wake-up call, le total, il fallait absolument baisser la dette. Et la dette, écoute, elle passe de... Alors là, je te parle de... Alors, lorsqu'au début des années 94, on parle d'un déficit de 12%, on parle d'une dette qui atteint plus de... Écoute, là, les chiffres de l'OCDE pour 97 donnent que le déficit... la part de la dette du gouvernement suédois était de 74% du PIB. Et là, maintenant, ils sont à 37.
Et c'est là que le plan d'action a été mis en place pour attaquer cette dette-là.
Oui.
Et justement, parle-nous un peu des mesures, parce que je pense que ce qui est important de retenir ce soir, c'est comment la Suède a justement attaqué cette dette. Parce que là, quand on est rendu à un niveau de 74% du PIB, je pense que ça prend un plan drastique, et c'est ce que la Suède a mené.
Oui. Alors, les sociaux-démocrates ont dit, OK, regardez, on va... dans un certain sens, ça pouvait seulement être mené à gauche. Pourquoi? Parce que à gauche, eh bien... c'est les syndicats qui sont avec eux. Donc, si on embarque les syndicats dans la stratégie, au lieu de les confronter, ben alors peut-être qu'on a plus de chances d'avoir un consensus. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'ils ont dit, l'important, OK, on veut des services qui sont donnés à la population. Bon, mais là, maintenant, il faut que ce soit efficace, efficace. Le mot, ça a été efficacité, qui a été implanté partout. Alors, par exemple, on avait les postes. Les postes, c'était une agence comme ici. On a privatisé. Alors, c'est-à-dire qu'on a transformé ça en compagnie par action. Et bon, là, maintenant, ça devait performer sur le marché. Alors, le marché était déréglementé, mais désormais, l'État avait de la compétition. Donc, évidemment, ça leur a rendu le service plus efficace. Et là, aujourd'hui, on a la Poste suédoise qui est fusionnée à la Poste danoise, qui est elle aussi privée. Et là, bon, ils vont faire leur entrée en bourse d'ici 1 ou 2 ans. Et puis après ça, ben, écoutez, là, moi, quand j'habitais en Allemagne, il y avait 4 facteurs qui venaient dans ma boîte aux lettres. C'était pas des fonctionnaires qui passaient le courrier. On a pensé les bons d'éducation. Alors, pour la compétitivité des secteurs de l'éducation, pour qu'ils gardent son efficacité, on a instauré un système de bons d'éducation. Alors ça veut dire que le parent reçoit un chèque pour faire éduquer ses enfants. Il va à l'école qu'il veut. Alors, toutes les écoles compétitionnent entre elles. Donc, ça veut dire que l'école privée, le directeur d'une école publique ou privée, l'école privée peut choisir de participer ou non à ce système-là. Si elle choisit, elle doit être se soumettre au ministère de l'Éducation. Mais le fond de ça, c'est que toutes les écoles compétitionnent pour avoir les enfants. Donc, ça veut dire que ça rend un système de l'éducation qui livre peut-être plus de résultats que lorsqu'il n'est pas soumis à aucun critère de performance. En santé, on a de plus en plus de privés, c'est-à-dire que le gouvernement paie pour des services qui sont délivrés par des cliniques privées. Donc, évidemment, il y a une compétition dans les tarifs que l'on charge. Ça permet aussi les personnes qui attendent très longtemps pour des traitements. Alors là, désormais, ben, vu qu'on a la possibilité de se faire soigner au privé, ben là, le public force un peu plus parce qu'il y a aussi des garanties de soins. Donc, vous avez des délais maximum. On pense aussi le transport en commun, c'est tout donné à contrat, ça, c'est-à-dire que, bon, la ville fait une ligne d'autobus, puis elle dit, elle va voir 12 compagnies, puis elle dit, ben moi, je veux un autobus qui passe là aux 20 minutes, je vous donne tant d'argent, faites-le passer. Et ça, c'est toujours une rotation comme ça. Le métro de Stockholm a 7 lignes, et il y a chacune des lignes, un peu comme à Londres, si vous connaissez ce système-là. On a vraiment, toute la fonction publique suédoise a été transformée en agence, qui fonctionnent un peu comme des entreprises, qui ont des objectifs, qui ont des plans à atteindre, qui ne peuvent pas dépasser
la structure budgétaire.
Quand on a, bon, vous connaissez Volvo, Saab, eh bien, quand c'est en difficulté, alors que ici Obama et Harper se sont dépêchés de sauver ces entreprises-là, le Suède dit non. Pas d'argent, bon, ça a été controversé. Et puis, je pense d'ailleurs qu'il y a eu quelques prêts qui ont été faits, mais vraiment, M. Reinfeldt, premier ministre de Suède, n'avait aucune envie de sauver ce secteur-là.
Mais quel a été le facteur clé? Parce que tu nous parlais tantôt, justement, de la théorie un peu des contraintes où on a approché à ce moment-là les parties prenantes comme les syndicats. Comment on a réussi à rallier? Parce que pour les gens, c'est comme c'est quand même une opposition assez importante que les gens vont s'imaginer de la part des syndicats quand on veut implanter comme ça des mesures de privatisation ou d'agence. Quel a été le facteur clé de succès pour arriver justement à ces fins-là?
En fait, c'est qu'il faut savoir que en Suède, le syndicalisme est très important. On parle de 70 à 80 % là, selon comment ça fonctionne, mais c'est que c'est pas du tout régent par an. En Suède, on se syndique parce que le syndicat va négocier. Bon, c'est une négociation par secteur, donc d'activité. C'est pas nécessairement des conditions blindées, là. On va se syndiquer, par exemple, parce que le syndicat va permettre d'avoir des assurances maladie privées moins chères qu'une compagnie X. Va permettre, par exemple, l'électricité en Suède, c'est déréglementé. Donc, ça veut dire que le gouvernement a sa compagnie Vattenfall, mais sinon, le marché est ouvert. Donc, c'est ouvert à la compétition. Et la Confédération générale des syndicats suédois, donc un organisme qui a près de 2 millions de membres, dit, OK, on veut un tarif de groupe. Alors, ils négocient. Alors, finalement, ils arrivent avec leur grosse pression. Alors là, eux, ils disent, non, nous, on veut absolument que les tarifs de l'électricité en Suède soient les plus abordables possibles. Donc, c'est notre intérêt. Donc, dans l'intérêt de nos membres, il faut que l'électricité coûte le moins cher possible. C'est vraiment, on les a vraiment amenés à regarder là, les avantages personnels que vous pouvez avoir. Par exemple, si on vous est payé à la performance, ça veut dire que si vous travaillez plus, vous allez avoir des meilleurs bonus, vous allez avoir des meilleures conditions. On a aussi, étant donné que le syndicat, comme je disais, c'est pas un syndicalisme de monopole comme ici, ben les gens étaient habitués dans une certaine structure ils étaient plus libres. Donc finalement, on a amené les gens à voir tous les avantages qu'il y avait pour eux. L'autre chose aussi, c'est que très possiblement, si j'ai pas de données, par exemple, sur les salaires ou tout ça, mais à l'époque et maintenant, mais bon, par exemple, conduire l'autobus à Stockholm, c'était pas un emploi aussi blindé que ça peut l'être à la STM ou à Montréal, exemple. Donc, déjà, en partant, quand vous partez ou est-ce que vos conditions de travail ne sont pas 2 à 3 fois meilleures que les gens du privé, ben à ce moment-là, c'est certain que quand il y a un équilibre, ben on est peut-être plus capable de convaincre les gens que ben c'est juste une marche, il y a peut-être rien à perdre parce que en changer de statut, parce que finalement bon, quand on dit qu'on va, quand on dit qu'on ne garantit plus l'emploi des fonctionnaires, quand on dit qu'on a que l'ancienneté ne sera plus respectée ou bon d'autres principes comme ça, ben ça veut juste dire mon homme, fais ton effort et puis ta job tu ne la perdras pas si t'es performant.
Ben je pense que c'est le mot que tu utilisais tantôt, efficacité, efficience. Donc c'était vraiment ce qui était au centre de ces mesures-là. Donc on doit justifier sa performance et à ce moment-là, l'État assure une certaine pérennité, comme tu dis, par ces syndicats-là. Moi je les vois et c'est peut-être bête comme comparaison des associations professionnelles ou je sais pas si c'est simpliste de le dire ainsi.
Non, moi quand je compare les deux là, c'est vraiment comme ça que je vois ça. Écoute, hein, supposons qu'un Suédois, je sais pas, mais il fait un cours de plomberie. Puis là, ben bon, il cherche une job, il a fini son cours, là, il adhère au syndicat des plombiers. Bon, mais là, bon, pour X raisons, là, il est 6 mois au chômage, eh bien, à se chercher un emploi, ben, le syndicat va lui donner de l'argent pour ben finalement son chômage, c'est le syndicat qui va le donner.
OK, OK.
Donc, il y a vraiment c'est que ton adhésion te suit, même à la retraite. Donc, c'est mon Dieu, c'est quasiment comme être un membre chez Costco. Là, je veux dire, c'est quasiment le même principe. Là.
D'où le fort taux de syndicalisation.
Oui.
Et quand on parle du mythe, justement, scandinave, là, quand on dit que, justement, comment ces systèmes-là peuvent-ils plaire autant à un Léopold Lauzon qu'à une Nathalie Elgrabi?
Ben en fait, c'est ben de deux choses. C'est que moi, quand je lis qu'est-ce que Léopold Lauzon dit, des fois qu'est-ce que certains péquistes vont dire, des fois certaines personnes vont m'en parler comme ça, puis c'est... Moi, je trouve beaucoup que on parle de la période 70 à... ou ben peut-être on parle de la période 60 à 85, 90. Là. Moi, quand Léopold Lauzon en parle, moi, je pense beaucoup qu'il a l'impression de parler de cette période-là comme si c'était encore là.
Ah, c'est ça. Lui fait référence à une période qui est révolue, oui, là, qui fait partie du passé.
Mais parallèlement, c'est qu'en fait, comme je te disais, c'est que pour la Suède, l'important, c'était, on dit, bon, si on veut garder un système de santé publique où est-ce que les gens sont soignés rapidement, OK, c'était la finalité. Donc, en Suède, là, il n'y a personne qui perd sa maison parce que parce qu'il faut qu'il se fasse opérer, mais en même temps, il n'y a personne qui attend 6 mois dans une... Ben, OK, il y a peut-être certains... Bon, il doit bien avoir des anecdotes comme on entend parler ici.
Oui, oui, effectivement.
Mais je veux dire, c'est on a gardé la finalité. Bon, tu vas à l'école privée, ça leur coûte rien. Bon, mais ils ont quand même un programme d'éducation. Ils vont avoir une éducation qui ressemblera pas à ce qu'on peut voir ailleurs. Et inversement, ben vu qu'il y a beaucoup de privé qui est mis là-dedans, vu que l'accent est mis sur l'efficacité et la compétitivité, quelqu'un comme Nathalie Gravely, ben c'est certain qu'elle est séduite par ça parce que on voit ça. L'autre chose aussi, c'est que, bon, tu sais que la gauche est un peu fanatique du coefficient Gini par rapport à l'égalité des gens. La Suède est une culture, justement, où est-ce que, bon, il y a quand même des égalités de revenus assez... les revenus sont assez égaux. Donc, on parle... Par exemple, les États-Unis ont un Gini d'à peu près 40, puis la moyenne européenne, c'est 31, puis la Suède, c'est 24-25 dans ce coin-là. OK, c'est certain que là, les autres, ils regardent ça. Hein, mais mon Dieu, les gens sont égaux. Regardez, en Suède aussi, on paie beaucoup d'impôts. Ça, c'est. Alors là, quelqu'un comme M. Lauzon, c'est certain que c'est. Bon. Moi, derrière ça, ce que je constate, si on regarde les statistiques au niveau de la pyramide de revenus, c'est qu'en Suède, bon, d'abord, on paye beaucoup moins d'impôts qu'il y a 20, il y a 30 ans, parce qu'il y a 30 ans, on payait pratiquement 60% d'impôts sur à peu près tous les revenus. Qu'est-ce qu'on constate maintenant, c'est que bon, étant donné que tout le monde paie des impôts avec une exemption de base très basse et des revenus qui sont assez égaux mais pas très élevés, ça veut dire que le modèle suédois repose beaucoup sur les impôts payés par les pauvres. Et ça là-dessus, moi c'est là que ça cloche par rapport à Léopold Lauzon. Moi je me dis, Léopold Lauzon accepterait jamais que quelqu'un qui travaille à 9 piastres de l'heure paye 40% d'impôts. Pourtant, dans les pays scandinaves, c'est la norme.
Oui, c'est une norme.
Mais hein, comme on dit, hein, quand on reste dans les clichés, dans les mythes, eh bien, hein, on fait le tri. Et ça peut se voir de l'autre côté aussi, parce que Nathalie Grably parle énormément de l'efficience et l'efficacité, la privatisation, les PPP, tout ça, dans la compétitivité dans les services publics. Sauf que, évidemment, moi je pense qu'elle serait probablement pas d'accord avec l'échelle fiscale suédoise non plus. Je pense pas non plus qu'elle serait d'accord pour que l'État, parce que vous avez une télé, vous force à payer une taxe pour payer la télé publique sans pub. Donc d'un côté comme d'un autre, hein, on peut.
Ben en fait, c'est ce qui caractérise un peu aussi les médias québécois. Des fois, on prend la partie qui nous intéresse ou la portion, et puis on en fait un mythe ou une référence. Et puis, Jonathan, je dois arrêter l'entrevue parce que le show avance énormément. Puis c'est très intéressant. Donc, c'est sûr qu'il faut rediscuter avec toi. Puis peut-être approfondir d'autres pays aussi scandinaves. Donc, merci beaucoup de ta présence ce soir.
Ben ça me fait plaisir.
Puis on s'en donne des nouvelles. Donc, on va faire, nous, une pause. Et de l'autre côté, on parle à Frédéric Têtu, qui est avec nous ce soir pour cette grande première. Donc, on se retrouve de l'autre côté. Vous êtes sur les ondes de XM172 et du radiochoc.fm. Like it. Alors, on est de retour à connaître la suite. Donc, on accueille Frédéric Tétu, professeur de philosophie au cégep François-Xavier Garneau, chroniqueur aussi à Radio X, aussi à Radio Pirate, donc également blogueur sur le site lesanalystes.ca, que je vous invite à consulter. Tu me disais, Frédéric, tu es plus ou moins présent sur le blog?
Ouais, ben, y a une concurrence entre le temps que j'aurai à mettre pour bloguer puis le temps que j'ai à mettre pour faire préparer des chroniques que je donne le lundi matin à l'émission Morel Live sur Radio X. Donc, on peut pas être partout et en même temps. Donc, je blogue pas beaucoup. Je
Bienvenue parmi nous, Frédéric.
Ça fait plaisir, Steve.
Ça nous fait plaisir de t'accueillir pour cette grande première, de connaître la suite. T'es quelqu'un qu'on avait identifié dès le départ pour la première, parce qu'on s'est dit, avant de lancer cette grande aventure, parce que connaître la suite, oui, ça veut une émission où on va débattre de liberté, de responsabilité individuelle, puis qu'on va comparer le modèle québécois, mais avant de lancer, bon, c'est divers sujets ou ces chroniques au fur et à mesure dans l'année, on s'est dit, faudrait partir la saison avec peut-être une définition de la droite. Donc, on appelle cette chronique-là la droite 101. Donc, pour mettre un peu les choses en perspective, à la blague, je te disais dans mon premier courriel que pour beaucoup de gens, et je le pense vraiment pour beaucoup de gens, la droite est arrivée avec l'ADQ au Québec, mais je pense que c'est important de mettre les choses en perspective, de revenir un peu dans l'histoire. Puis ça serait ma première question, la droite, est-ce que c'est quelque chose qui fait partie de l'ère moderne? Est-ce que c'est quelque chose qui date de Jésus-Christ?
Ben là, tu parles de droite. On peut pas parler de droite sans parler de gauche sans parler de droite.
Ouais, c'est ça. Donc, faut parler des deux.
Donc, si la droite est apparue au Québec avec l'ADQ, faudrait ajouter que la gauche aussi. Parce que un va pas sans l'autre, puis un se définit par rapport à l'autre. Historiquement, la distinction gauche-droite est apparue en France suite à la Révolution française lors de l'Assemblée nationale de août-septembre 1789. Où là, les députés se sont divisés en deux clans de chaque côté du président de l'Assemblée. Et à droite du président se sont retrouvés les députés qui favorisaient le droit de veto du roi par rapport aux décisions de l'Assemblée du peuple, alors qu'à sa gauche se sont regroupés ceux qui étaient contre ce veto-là, donc ils voulaient une suprématie de l'Assemblée du peuple versus toute décision du roi. Donc à ce moment-là, la droite, c'est des conservateurs, on pourrait dire même en réaction face à la Révolution française. Donc l'étiquette réactionnaire va souvent être... rattaché à l'étiquette droite, à raison parfois, mais très à tard de nos jours, en tout cas au Québec. Et essentiellement, je te dirais, ça va devenir paradoxal, ceux qui sont à gauche, c'est les libéraux. C'est les gens qui sont en faveur de la suprématie populaire, qui sont en faveur des droits et libertés, de la démocratie, de l'égalité.
C'est ce qu'on apprend.
Alors que les gens de droite sont ceux qui sont en faveur des privilèges.
Oui.
Autant du roi que du clergé aussi et de la noblesse.
Oui.
Ça inclut ceux qu'on appelait les ultramontains, qui voulaient non seulement que le roi ait préséance sur l'Assemblée du peuple, mais qui voulaient que le pape ait une sorte de droit de veto ou de préséance le pape qui était à Rome. Donc, ultramontain, ça veut dire au-delà des montagnes, parce que le pape est en Italie. Donc, ça, c'est une première chose c'est une première difficulté quand on veut clarifier ces notions-là puis les débroussailler, c'est que leur sens est variable selon le temps, au travers de l'histoire et selon l'espace, selon les histoires nationales. Je te donne un exemple. Il y a toute une tradition républicaine en France qui est liée, tu sais, à la naissance même de la République française, puis qui vient brouiller les cartes par rapport à qu'est-ce que ça veut dire être à gauche, qu'est-ce que ça veut dire être à droite, alors que il y a une tradition impériale en Angleterre qui n'existe plus, mais qui a marqué son histoire,
qui a marqué l'histoire,
qui vient brouiller les cartes et sur des sujets d'actualité, peut-être pas d'actualité brûlante de ce matin là, mais si on regarde dans le passé récent au Québec, la question des accommodements raisonnables. La réaction en France par rapport à la diversité des pratiques, les demandes d'accommodement, la réaction générale en France est très différente de celle en Angleterre et ça s'explique. En Angleterre, il y a une grande ouverture, une grande flexibilité parce que ça s'inscrivait dans leur tradition impérialiste d'accueillir puis d'intégrer des peuples de toutes sortes de cultures très différentes. Alors qu'en France, pour couper avec la tradition monarchiste, avec la Révolution française, on a établi un modèle républicain, entre autres une école où on voulait faire des citoyens, tu sais, puis les déraciner par rapport au passé immédiat. Donc, c'est très complexe. En même temps, ce que je veux faire avec vous ce soir, évidemment, c'est d'essayer de simplifier ça puis d'en venir à essayer de débroussailler ça pour le Québec d'aujourd'hui.
Pour le Québec.
Mais on pourra regarder aussi pour le
Québec. Oui, c'est ça. Parce que la France a été, bon, le point d'origine, évidemment, de cet axe gauche-droite, mais il y a beaucoup de peuples qui, à travers les années, justement, je regardais le modèle américain, justement, on a vu un transfert de gauche-droite comme ça, de mesures qui sont démocrates, mais qui sont de gauche, et à l'inverse. Donc, pourquoi qu'à travers les époques comme ça, on a eu ces vases communicants-là, puis on s'est retrouvés...
Je pense que tu viens de toucher quelque chose. C'est le premier point que je voulais aborder. Qu'est-ce qui fait que c'est si embrouillé, ces notions-là?
Ouais, c'est ça,
Premièrement, le fait que ça change avec l'histoire, donc dans le temps et dans l'espace selon les pays, mais aussi parce que tu as référé aux partis politiques. Un des problèmes avec les notions de gauche-droite, c'est des notions théoriques, c'est des notions de philosophie politique. Et on essaie de les associer à des partis politiques qui sont dans l'action. Et d'ailleurs, ces partis-là essaient de se les approprier. Il y a un parti libéral au Québec. Bon, c'est pas gauche-droite, mais enfin, éventuellement, ça pourrait se rattacher. Le Parti québécois se dit social-démocrate, donc à gauche. Québec solidaire ne s'en cache pas, ils sont à gauche. Donc,
oui,
les partis politiques s'approprient. Parti conservateur, c'est le conservatisme, c'est une notion qu'on associe normalement plus à la droite.
On
en reparlera. Donc, ces notions-là qui, à la base, quand on veut les clarifier, les comprendre, carrément de la philosophie politique. Quand ça fait le passage à l'action politique, c'est court-circuité parce que tu as des partis qui s'appellent conservateurs, mais qui vont augmenter les dépenses puis faire des déficits, comme le parti de Harper dans les deux dernières années, alors que des partis sociaux-démocrates comme le PQ, qui à un moment donné, à la fin des années 90, vont avoir une politique de déficit zéro et vont même à la fin des années 90 baisser les impôts,
oui,
qu'on associerait à des mesures de droite fiscale, et à raison. Donc, deuxième raison de confusion, quand on arrive sur le terrain de l'action politique, il y a des inversions qui se font. Et en passant, les partis politiques, sauf excessive rare exception qu'on n'a pas connue au Québec à ma connaissance dans notre histoire, les partis politiques dans une démocratie libérale comme la nôtre gouvernent toujours près du centre. Ils sont jamais très loin. Puis la définition, j'aimerais ça qu'on dise un mot tout de suite sur le centre, parce qu'on parle gauche-droite, on parle jamais du centre.
Effectivement.
Qu'est-ce que c'est le centre? Deux caractéristiques fondamentales interreliées. Le centre, c'est une posture d'abord pragmatique. Quand on est au centre, on n'aborde pas les problèmes de manière idéologique, donc avec des notions préconçues de qu'est-ce qu'on doit faire, mais on se laisse guider par les besoins et l'urgence du moment. Et deuxième caractéristique qui découle de la première, quand on est au centre, de temps en temps, on donne un coup à droite, puis de temps en temps, on donne un coup à gauche.
À gauche.
Et donc, étant donné que dans l'action politique, les partis au pouvoir sont toujours près du centre, ça veut dire que même s'ils sont à gauche, de temps en temps, ils vont aller donner un coup à droite. Même s'ils sont à droite, de temps en temps, ils vont aller donner un coup à gauche. Alors, ceux qui veulent brouiller les cartes peuvent tout mélanger. Alors, ceux qui veulent vous dire, par exemple, que le PQ, c'est un parti de droite, ou que le Parti libéral du Québec est encore un parti de droite, vont vous dire qu'en telle année, ils ont donné une baisse d'impôts. Alors, ils ont peut-être pris 9 mesures de gauche, mais à un moment donné, ils en ont pris une de droite. On va identifier cette mesure-là en particulier pour dépeindre un portrait généralisé. Ça me fait penser à ce que disait ton chroniqueur juste avant que j'entre en onde, qui disait El Grabli et Léopold Lauzon peuvent dépeindre un portrait de la Suède comme étant à gauche ou à droite en allant chercher ce qu'ils font leur affaire. Je te dirais qu'avec les partis politiques qui sont au pouvoir, qui gouvernent, on peut, sauf dans des cas excessifs comme, je dirais, le NPD de Bob Rae au début des années 90, où là, c'était vraiment très radical à gauche. Mais à part cette exception-là, si on regarde dans l'histoire du Québec, ça serait difficile, d'après moi, surtout plus elle est récente, plus c'est vrai, ça serait difficile de dire qu'un gouvernement a été... Parce que ça serait difficile de ne pas pouvoir caractériser nos gouvernements en disant « Ah, ça a été un parti de droite, tout ça a été un parti de gauche » parce qu'ils ont été près du centre et donc un peu des deux bords. Et très souvent aussi, ces étiquettes-là, on les utilise pour attaquer nos adversaires, surtout la position de droite. Donc, reconnaître ce que c'est que la droite, ça aussi, c'est difficile parce que on associe à ça toutes sortes d'images repoussantes, des images de fascistes ou de régimes autoritaires ou de mesures... je vais donner un exemple, un classique. On va dire « Être à droite, ça va être pro-entreprise ». Et c'est très paradoxal parce que d'abord, les grandes entreprises, dans le monde des entreprises, les entreprises petites et moyennes ont tendance d'être à droite, c'est-à-dire Là, on va commencer à définir ce que c'est, selon moi. Ouais. C'est-à-dire de vouloir moins de gouvernement, de vouloir moins de réglementation ou des réglementations plus flexibles, d'avoir plus de marge de manœuvre. Et ça se comprend, une petite entreprise, elle peut pas s'engager quelqu'un à temps plein pour demander des subventions, par exemple. Alors, même s'il y a des programmes de subventions qui s'adresseraient à elle, elle n'a pas les ressources pour aller les chercher. Elle n'a pas nécessairement à temps plein les moyens d'engager à temps plein un avocat pour pouvoir contourner les réglementations en place ou les utiliser à sa bonne escient. Alors, ce que souhaitent souvent les petits et moyens entrepreneurs, c'est un milieu réglementaire flexible, si possible, moins de taxes et d'impôts, parce qu'en échange, elle sait que elle pourra pas compenser les taxes et les impôts qu'elle paie en allant chercher des subventions qu'elle a pas les ressources pour aller chercher.
Difficilement concevable pour une PME d'avoir des lobbyistes ou de faire du lobbying.
Ah, ça c'est un autre exemple, très bel exemple. Exactement, se payer des lobbyistes à temps plein,
c'est impensable.
Le dépanneur du coin, il a pas les moyens.
Non.
Peut-être Couche-Tard, mais pas le dépanneur du moyen.
Oui, c'est ça.
Alors que, mais souvent quand on pense à entreprise, parce que les gauchistes vont dire la petite entreprise, puis la moyenne entreprise, on l'aime. Elle est bonne. C'est de proximité, c'est équitable, tout. Ce que visent les gauchistes très souvent, c'est la très grande entreprise, la grande et la très grande entreprise. Or, dans les faits, la grande et la très grande entreprise, dans les marchés où elle est présente, elle n'est pas à droite, elle est à gauche. Si être à gauche, c'est de vouloir que le gouvernement intervienne, que ce soit par des réglementations très strictes, tribunaux réglementaires, par exemple, comme le CRTC dans le monde de la radio.
Je pense que c'est un bel exemple. On voit aujourd'hui que on demande justement au CRTC d'intervenir dans des dossiers. Puis c'est souvent les grandes entreprises qui demandent ces interventions-là.
Et oui, et d'ailleurs, il y a un prix Nobel du début des années 80, un prix Nobel en économie qui a montré que des grands organismes réglementaires comme le CRTC faisaient le jeu à terme. Permettait aux gros joueurs d'une industrie donnée. Je parle du CRTC, mais ça pourrait être dans l'agroalimentaire
effectivement.
Peu importe. Ça permet à des gros joueurs, les plus grandes entreprises dans ce domaine-là, d'établir un quasi-monopole ou un oligopole. Là, c'est-à-dire, ça leur permet, en jouant les règles à leur faveur, d'éliminer les petits joueurs. Et ces grandes entreprises-là, sont tout à fait en faveur de subventions et de prêts ponctuels parce qu'elles sont bien placées pour aller les chercher. Et en ce sens-là, elles sont, si être à droite, c'est vouloir moins de gouvernement, moins de réglementation, moins de taxation, puis être à gauche, c'est vouloir plus de réglementation, plus d'intervention de l'État dans l'économie. Les grandes entreprises capitalistes sont de gauche. Il y a une exception, c'est par rapport au marché qu'elles n'ont pas encore pénétré. Alors, c'est sûr que les grandes entreprises qui sont pas présentes en Chine veulent que la Chine ouvre ses marchés, déréglemente et tout.
Effectivement.
Mais par rapport au marché où ils sont présents, ils sont protectionnistes. Alors, les gens de droite, on pourrait dire, de free marketers, on dit en anglais, les capitalistes, ceux qui sont à droite économiquement, j'aime pas capitaliste parce que c'est un terme qui vient de Marx. Il veut justement tirer notre œil sur l'entreprise.
Effectivement.
Dire les gens de droite sont pas entreprises. Les gens qui sont de droite économiquement, ils sont pas pro-entreprise. Ils sont pro-libre marché et ils sont pro-concurrence. Le génie de l'économie capitaliste, c'est pas l'entreprise privée. C'est la compétition.
La compétition.
C'est le fait qu'il y a plusieurs joueurs. Tu mets une entreprise privée en monopole, c'est pas meilleur qu'un monopole public.
Mais justement, au Québec, et je regardais un peu des fois les discours qui peuvent énormément varier. Quand on regarde, je vais prendre un exemple d'entreprise pour illustrer un peu ce qu'on vient de parler, c'est Bombardier. Donc, dans le cas de Bombardier, on est pour les subventions, mais lorsque, justement, une entreprise comme Electrolux, pour ne pas les mentionner, on fait un peu le même travail au point de vue de la ville aux États-Unis, et là, on décrit le modèle. Et pourtant, nous, on applique systématiquement ce modèle-là avec nos grandes entreprises. Donc, on élimine cette compétition-là et on le voit au détriment des fois de hausses ou de coûts exorbitants. Donc, c'est toujours... Et les gauchistes vont décrier ces façons de faire, mais pourtant...
Ils sont toujours surpris, les gauchistes. Alors, ils veulent décrire les gens de droite comme étant pro-entreprise, eux se décrivant comme étant pro-travailleurs. Et quand ils disent « Ah, ben... nous, vous êtes pour les subventions aux entreprises. » Et moi, je leur réponds, et mes amis libertariens leur répondent toujours, « Non. Vous voulez les abolir, les subventions aux entreprises? Allez-y. Pas de problème. » Ils savent pas quoi répondre à ça. Mais là, Joe Public pourrait dire, « Ouais, mais les entreprises, ça sauve des emplois. Et donc, c'est bon. »
Effectivement.
Mais là, ça, c'est le vieux principe en économie, le vieux principe de Frédéric Bastiat qui a dit, « Le problème, c'est qu'on regarde... » Il y a ce qu'on voit et on se laisse hypnotiser par ce qu'on voit, puis on oublie ce qu'on ne voit pas. On voit la job sauvée, mais on voit pas ce qui serait arrivé si on l'avait pas sauvé. Avec l'argent qu'on a utilisé pour sauver ce job-là, on voit pas ce qui est arrivé. T'sais, on parle à partir de la région de Québec, là, les sommes, je pense même que c'est rendu à 1 ou 2 milliards de dollars qui ont été dépensés depuis 30 ans pour sauver des emplois à la ML Davy,
oui,
qui finalement n'ont pas été sauvés, mais pendant un certain temps existaient encore. Qu'est-ce qui serait arrivé si on avait investi cet argent-là, par exemple, dans le système d'éducation? Et entre autres à l'université où on fait de la recherche qui mène éventuellement à des découvertes qui peuvent qui mènent à la fondation, l'établissement de nouvelles entreprises. Le 132 millions qu'ils ont mis, je pense, au Tennessee pour attirer Electrolux, si eux l'avaient mis pour faire du capital de risque ou simplement pour le laisser dans les poches de leurs citoyens qui, eux, l'auraient dépensé au restaurant ici, il y a des emplois qui se seraient créés, qui auraient correspondu aux besoins de leur société. Mais c'est toujours tentant, parce que là, je veux amener un point bien important. Moi, je me définis comme quelqu'un de droite. Je veux pas dénigrer le fait d'être à gauche. Ça se comprend, ça se justifie. Mais quelqu'un pourrait dire, si je regarde ça de manière objective, si la droite, ça marche mieux que la gauche sur le plan économique, pourquoi est-ce que tous les gouvernements du monde sont à gauche? Parce que tous les gouvernements du monde que je connaisse, en tout cas du monde industrialisé, ont des très hauts taux de taxation, ont des très hauts taux d'endettement. Là, on se gargarise. Tu sais, l'Alliance sociale au Québec dit « C'est pas si pire l'endettement au Québec, on est moins pire que la Grèce, puis le Portugal, puis l'Argentine. On est moins pire. » Mais si on regarde ça objectivement, on est très endetté, que ce soit le Canada, le Québec, l'Ontario, les États-Unis. On est très endetté. On a des très hauts taux de taxation, on a des très hauts taux d'intervention sous forme de subventions, de réglementation. Faudrait conclure là que là c'est une question de savoir jusqu'où on est dans la gauche. On est tous à gauche, la France, l'Angleterre, l'Allemagne, le Québec, on est tous dans le même bain. Alors est-ce que ça fait pas la démonstration de la supériorité de la gauche si ça tend de succès? Puis là, je pense que ce qu'il faut faire intervenir ici, c'est le processus électoral en démocratie. Toutes les démocraties, sur le plan économique, gèrent leur économie à gauche parce qu'il y a quelque chose dans la démocratie qui pousse la société à aller vers là, c'est-à-dire des politiciens, l'exigence d'un politicien qui veut se faire réélire, qui veut faire des promesses pour se faire réélire, et qui veut avoir un bilan pour se faire réélire.
Effectivement, l'appareil ou le système fait en sorte que, effectivement, on n'a pas le choix. Il faut tenter de se faire réélire. Donc, à ce moment-là, on parle toujours de mesures d'implantation.
Exactement.
De mesures particulières.
On a créé 100 000 emplois. Ouais, même des gouvernements supposément de droite, comme le gouvernement Harper, va arriver en élection s'il y en a ce printemps, puis va dire, sous notre gouvernement, nous avons créé tant d'emplois par année. Nous avons sauvegardé tant d'emplois. Mais ils prennent ça à leur compte, comme si c'était l'État et le gouvernement et les bureaucrates ultimement les fonctionnaires des ministères qui faisaient en sorte que toi, si tu travailles à l'Industrielle Alliance, parce que eux ont pris les bonnes mesures, et puis si quelqu'un les écoute travaille chez Couche-Tard ou peu importe où, c'est parce qu'on a pris les bonnes mesures étatiques pour sauver son emploi. C'est une rhétorique qui est très, très forte, et un vrai gouvernement de droite. En passant, les conservateurs, ça serait un très bel exemple de ce que j'ai appelé le centre. Je pense que depuis qu'ils ont été élus en 2005, parce qu'ils sont minoritaires, entre autres, à cause de la personnalité de Harper aussi, si vous voulez savoir c'est quoi un gouvernement de centre, vous avez un bel exemple. Un petit coup à gauche, un petit coup à droite, toujours dans un esprit très pragmatique. Puis, et en même temps, un bel exemple de la difficulté de clarifier ce que c'est la gauche et la droite quand on regarde comment ils ont été démonisés comme étant des gens de droite, les gros mots qui sortent, là, tu sais, c'est la George Bush puis la droite et tout. Alors que si on regarde ça pondérément, de posément, avec pondération, on se rend compte que le gouvernement Harper, c'est un gouvernement qui a baissé pas mal les taxes, en particulier la TPS, mais aussi sous forme de crédit d'impôt, des particuliers comme des entreprises, mais qui a augmenté énormément les dépenses, qui a coupé aucun programme d'importance, puis que quand la crise est arrivée, que sa réaction, ça a été de faire un gros déficit pour stimuler l'économie, puis sauver GM, tu sais. Donc, puis sur le plan symbolique, bon, ils ont présenté des projets de loi, on pourra revenir parce que j'ai parlé beaucoup d'économie.
Mais si on compare avec d'autres modèles, justement, peut-être ce qui nous caractérise au Québec, parce qu'effectivement, on voit que l'ère moderne a amené beaucoup de gouvernements de gauche, mais Est-ce qu'on a cette bipolarisation par rapport à justement à la droite? Parce que on retrouve de la droite aux États-Unis, en France, partout en Europe, l'extrême droite même. Nous, ici, on dirait au Québec qu'on a vraiment beaucoup plus de centre et de gauche que de droite. Donc, parce que, et là, je lisais, et peut-être qu'un philosophe comme toi va aimer entendre ce que je vais dire. Donc, je lisais que d'un point de vue de la théorie des sciences politiques, la bipolarisation semble être le système permettant la meilleure cohérence. Donc, est-ce qu'on a à être inquiet de cette absence-là de droite au Québec ou d'extrême droite par rapport à cet équilibre-là?
Bon, ben, je vais ajouter, avant d'arriver à ta question, de répondre à ta question, un autre facteur qui rend difficile la clarification de ce que c'est que la gauche et la droite, c'est que en bout de piste, c'est simplificateur par rapport à la réalité politique. Ce qu'on appelle la droite, ça recoupe plusieurs tendances qui ont certains points en commun, mais qui peuvent se contredire sur certains enjeux. Et même chose à gauche. Donc, on n'a pas, c'est très difficile de parler de politique de manière théorique sans parler de gauche-droite, puis en même temps, ça risque de camoufler des nuances dont je parlerai dans un instant. Maintenant, quand tu dis pas de bipolarisation, c'est dangereux, c'est ce que tu disais.
Oui.
Bon, ça, c'est le fameux thème de mon ami Éric Duhaime qui dit au Québec, les cartes ont été brouillées par le débat constitutionnel. Ça a été brouillé ces enjeux-là du fait que pendant une bonne quarantaine d'années, on s'est défini beaucoup plus en tant que souverainiste et fédéraliste. Mm-hmm. Ça commence dans les années 70, c'est encore très fort dans les années 80. On a un autre référendum dans les années 90. Puis je te dirais que dans les années 2000, on était comme sur nos vieux réflexes. Donc, on a une quarantaine d'années. C'est à la fin des années 2000, début 2011, disons peut-être milieu des années 2000 avec l'ADQ, que là, on commence à parler de droite, mais là, ça a pris du temps avant que les vieux réflexes qu'on se déconditionne, parce que des gens avec qui ça faisait l'affaire de pas avoir la bipolarisation, il y en a à qui ça faisait l'affaire, il y a des intérêts en jeu qui étaient protégés par le fait qu'il y avait que la gauche qui avait de la crédibilité puis qui était légitime au Québec, puis que la droite était complètement démonisée. On parle entre autres des grands intérêts des syndicats, de certains lobbies
mais c'est pas ce qui est au centre de nos problèmes, justement.
Oui.
Le fait qu'on a tellement eu une balance qui était très orientée vers cette gauche, cette absence de droite-là, aujourd'hui, on en paie le prix. Et on voit que les gens de droite aussi en paient le prix aussi aujourd'hui, parce que aussitôt qu'on veut prendre cette allégeance ou ce côté-là, on souhaite toujours immédiatement...
Prenons un exemple de ce que tu dis, parce que je suis tout à fait d'accord avec toi. Si on reste dans notre vieux réflexe où il n'y a que le modèle étatiste, interventionniste de gauche qui existe au Québec... Ben, quand on regarde les problèmes dans le système de santé, qu'est-ce que ça veut dire? Les listes d'attente qui sont énormes. Pas juste à l'urgence, là. Puis tu te parlais de gens qui attendent 6 mois. Si tu attends juste 6 mois pour une opération au Québec, t'es chanceux.
Ouais, t'es chanceux.
Il y a des gens qui attendent un an, 2 ans. Puis des fois, il y a des gens qui attendent 1 an, 2 ans, pas pour un traitement, mais pour un test de dépistage qui mènera ensuite à une attente en vue du traitement. Tu sais, c'est absolument scandaleux et c'est absolument indécent. L'état du système de santé du Québec, surtout si on tient compte de la richesse moyenne collective, c'est incompréhensible et que les gens l'acceptent, les gens aiment chialer, mais au bout du compte, il n'y a rien qui change parce qu'il n'y a pas d'action politique et citoyenne qui amène ça à changer. Au bout du compte, les gens, après avoir donné leur coup de gueule sur la ligne ouverte, ils retournent chez eux puis écoutent le hockey puis c'est comme si rien s'était passé. C'est absolument fantastiquement scandaleux et c'est un échec pitoyable. Mais si on se situe dans la perspective que tu décrivais où il n'y a qu'un pôle, qu'il n'y a qu'une manière de penser, l'intervention d'État bureaucratisé,
ce qu'on appelle souvent
la pensée unique, ce que ça veut dire, c'est que la seule solution face à ce problème-là, ce serait de mettre plus d'argent. Puis c'est ce que Régent Parent de la CSQ a dit. Il manque
de ressources pour aider les gens qui en ont plus besoin.
Et ce qu'il est en train de dire, c'est engager plus de travailleurs syndiqués, CSN, puis CSQ, puis alors que dans bien des cas, on pourrait faire plus juste avec des conventions collectives plus flexibles dans les hôpitaux. Mais ça serait pas suffisant. Alors que quand il y a une bipolarité gauche-droite, là, il y a un univers de possibilités, de solutions possibles qui s'ouvrent à nous. On devient ouvert à toutes sortes de scénarios possibles.
Parce que le contribuable qui en paie le prix, c'est monsieur, madame, tout le monde qui a pas justement cet éventail d'idéologie, de partage, de solutions.
Parce que t'as beau avoir des revenus, des ressources matérielles initiales relativement élevées comme on a au Québec, si tu dépenses très, très, très mal ton argent, tu paies trop pour ton char, tu l'as mal négocié, tu dépenses sur des frivolités inutiles, ben éventuellement, ton niveau de ressources matérielles ne se traduira pas en niveau de bien-être. Et c'est ça que je vois au Québec. Moi, quand j'entends des gens vont dire « bon, on n'est pas si pire que ça au Québec, puis si on regarde certains indicateurs, on ne s'en tire pas trop mal », oui, mais une grosse partie du niveau de vie en Occident, surtout au moment où on est vieillissant, c'est l'accès à des soins de santé, c'est la santé, c'est, on dit, c'est le bien le plus précieux, c'est le plus important. Ben, on n'a pas, on n'est pas dans le luxe, on n'a pas du tout le niveau de vie, je dirais même de classe moyenne qu'on devrait avoir. Moi, quand je vais à l'urgence, je me sens pas de classe moyenne. Je me sens même pas pauvre. Je me sens tiers-monde.
Ben oui, effectivement.
Bon, évidemment, comme dans le tiers-monde, il y a des gens qui ont des contacts, j'en ai, donc je fais pas à fil. Ça, c'est une autre histoire. Et je le dis pas pour baver les gens, je leur dis, ben, réveillez-vous. Alors, quand on parle du système de santé, puis je vais y aller très brièvement, des solutions possibles. En Suède, il y a des hôpitaux construits par le privé, opérés par le privé, avec des employés dont le boss est une entreprise privée, qui, donc ils travaillent dans le monde privé, c'est tout, mais les coûts des gens qui se présentent à l'urgence ou qui sont hospitalisés, c'est couvert par le gouvernement. Donc là, tu as un mix où tu as la force du privé qui doit soumissionner, qui doit accomplir, offrir les services à un coût prédéterminé qui fait l'affaire du gouvernement, doit prendre un risque donc, parce qu'il doit s'assurer de pouvoir les livrer dans une certaine marge, sinon il va perdre de l'argent. Et tu as une efficacité qui sert bien les citoyens, comme les transports en commun, c'est une tendance en Europe, et ça a été mentionné dans l'intervention avant la mienne, que ce soit à Stockholm, les transports en commun ou le métro de Londres, c'est le cas le plus célèbre, où finalement le gouvernement donne en sous-traitance à une somme fixe, je te demande de desservir à telle fréquence, telle ligne, en demandant peut-être des droits de passage maximum de telle hauteur, puis pour que tu fasses ça, je te donne tant. Mais là, attends, avant, ils vont en appel d'offres, puis là, les gens se soumissionnent.
Ben oui,
effectivement. Bon. Et petite anecdote en passant, la première fois qu'ils ont fait ça avec le métro de Londres, de mémoire, ils ont offert au secteur privé de gérer le métro de Londres comme c'était le cas quand c'était géré par le public. Puis ils ont payé en bout de piste 70% pour que ça soit géré de ce qu'ils payaient avant, mais pour les mêmes services.
Oh oui.
Et après 2 ans, l'entreprise qui a obtenu le contrat faisait tellement d'argent que le gouvernement de Londres a voulu réouvrir le contrat, c'était indécent. Il faisait ça à 70% du prix. Puis, alors, très souvent, le secteur privé peut faire à 50% du coût ce que le public fait.
Mais Frédéric, tu sais, il y a des endroits dans le monde comme ça qui ont eu ce regard-là. Puis ce que j'essaie de comprendre, c'est parce que nous, au Québec, on est tellement orienté vers la pensée unique, justement, de gauche, que on n'a pas cette ouverture-là parce qu'on voit, là, l'Angleterre l'a fait encore dernièrement, ouais, ils prennent des mesures.
Il y a une cause à ça, Steve. Je reviens au débat national. Il n'y a pas si longtemps, puis j'en ai été victime, il n'y a pas si longtemps, quand tu remettais en question le modèle québécois, le fameux modèle québécois de gauche monolithique, mur à mur, tu te faisais accuser de faire du Québec bashing. Encore au printemps dernier, au printemps 2010, quand Maxime Bernier est sorti avec son discours de Mont-Saint-Grégoire, où il a dit « nos élites nationalistes font la promotion de l'indépendance politique depuis 40 ans, mais le résultat net de tout ça, c'est la dépendance économique envers le gouvernement central », il s'est fait traiter de par nul autre, entre autres, que Raymond Bachand, ministre des Finances du Québec, de Québec bâcheur. T'sais? Donc, ça montre que face à la question nationale, il y a eu une élite médiatique, politique, syndicaliste qui a dit « il faut qu'on serre les rangs, il faut qu'on serre les coudes face au fédéral, face aux anglophones qui nous menacent ». Et quand on voulait bipolariser le débat, entre autres sur la question du modèle économique, socio-étatico-économique, ben là, on se faisait traiter de Québec basher, de traître, on se faisait dire qu'on avait honte d'être Québécois. Et ça, je pense qu'on est en train d'en sortir, bien sincèrement.
Je l'espère, parce que quand on voyage un peu, on voit en France, je veux dire, le débat public, on le partage avec la gauche et la droite. Aux États-Unis, la gauche et la droite ont leur place. Et nous, ici, assez souvent, on élimine carrément du revers de la main. On laisse un peu plus de place à la droite, mais assez souvent, c'est un peu pour, je dirais, un peu mousser aussi le capital de la gauche qui aime se confronter avec la droite, mais on revient toujours assez souvent avec la pensée unique.
Oui, puis il faut dire, la droite au Québec, en tout cas, ce qu'on appelle à Montréal, puis j'aime bien l'étiquette, faudra qu'on la récupère à Québec aussi, c'est la nouvelle droite. C'est une belle expression et je pense qu'elle est, elle est utile dans le sens où c'est pas la droite telle qu'on l'a caricaturée dans le passé. La droite au Québec, celle en tout cas qui émerge puis qui s'impose sur la scène médiatique, entre autres, on pourrait dire avec l'ADQ de Gérard Deltel, c'est dans ce sens-là qu'il va. C'est pas la droite, ce qu'on appelle la droite sociale ou en anglais social conservatives, la droite du conservatisme social, qu'en français on pourrait peut-être appeler la droite du conservatisme moral. C'est-à-dire, c'est pas une droite qui veut remettre en question le droit à l'avortement. C'est pas
ça,
une droite
puis,
qui,
la peine de mort,
qui est homophobe ou qui c'est ça qui fait d'un grand enjeu la peine de mort. En passant, c'est tout ce qu'on vient de mentionner des notions qui relèvent du fédéral. Donc sur la scène provinciale, c'est pas un enjeu, mais même quand on se prononce sur les enjeux fédéraux, c'est pas du tout les préoccupations de cette nouvelle droite québécoise. C'est pas une droite autoritaire non plus, tu sais, une fixation sur la criminalité, puis les jeunes, puis la drogue. Au contraire, c'est une droite qui est plutôt libertarienne et donc sur la question de la prostitution puis les drogues, aurait plutôt tendance à dire on est déjà dans des zones grises par rapport à la prostitution, par exemple, on devrait être moins hypocrite. Moi, je vais te le dire bien honnêtement et sincèrement, là, je n'ai pas recours au service de prostituée. Je ne voudrais pas que mes filles deviennent des prostituées, OK? Une des raisons pourquoi j'ai pas recours au service des prostituées, c'est pas que j'ai un problème moral avec ça, mais c'est que je me sentirais loser d'avoir à payer pour des services de cette nature-là. Je trouverais ça dévalorisant personnellement. Je ne juge pas ceux qui le font, mais je pense que ça devrait être sincèrement légalisé. Et je dirais la même chose sur la drogue. Je ne prends pas de drogue. Je tire sur un joint une fois par 3 ans quand j'ai tellement de pression de mes pères autour de moi dans un party endiablé. Généralement, je fais comme Bill Clinton. Je ne inhale pas. Je tire sur le joint, mais j'avale pas. J'aime pas ça. C'est pas mon genre. Mais j'ai pas. Et ça je pense que c'est caractéristique de la pensée de droite libérale, libertarienne, de dire qu'il y a plusieurs comportements auxquels je n'adhère pas, qui ne sont pas les miens, mais que je dois accepter en société. Ça, c'est une des choses que je reproche à la gauche, une de ses tendances, c'est que c'est elle qui est autoritaire, tu sais, qui va vouloir faire des campagnes pour essayer d'éliminer le gros trans ou d'éliminer les Big Mac ou d'éloigner les McDonald's des écoles. Alors que qui dit liberté de choix, puis dit aussi responsabilité. Moi, je crois en l'éducation. Je mets mes tripes un peu sur la table. Mes enfants ont jamais bu de liqueur, sauf une fois dans leur vie, puis on trouvait ça leur a levé le cœur parce qu'il y avait 7, 8, 9 ans, puis ils n'avaient jamais bu. Puis quand t'as jamais bu ça, tu prends ça, c'est bon. Moi, je crois à la responsabilité des parents, à la responsabilité des professeurs, des enseignants, à la responsabilité des journalistes de nous informer correctement. Et ensuite, on fait des choix librement. Et pour moi, ça a une plus-value morale. Si je ne mange pas mal, parce qu'il y a des bureaucrates qui ont planifié qu'il n'y aurait pas de gros trans dans mon environnement, je n'ai pas fait l'apprentissage de l'existence humaine qui va avec le fait que des fois, on fait les mauvais choix puis qu'on se casse la gueule. Alors ça, c'est une grande différence entre gauche et droite. Les gens de droite, même de cette nouvelle droite dont je viens de parler, puisqu'ils prennent la liberté et la responsabilité individuelle, ils sont prêts à accepter le fait qu'il y a des gens qui ratent leur coup. Ça arrive, ça. Alors que la tendance à gauche, me semble-t-il, c'est de vouloir créer une société sans risque. Mais ce faisant, donc une société où tous les risques possibles ont été éliminés par un gouvernement et ses bureaucrates bienveillants qui ont pensé à l'avance pour toi. Mais là, ils ont planifié ton existence. Pour faire ça, ils doivent intervenir dans les moindres replis de ton existence. Tu vas faire du vélo, tu vas avoir un casque à la tête, tu vas faire du scalping, tu vas avoir un casque, puis là, tu vas t'acheter de la viande au magasin.
Mais monsieur, madame, tout le monde, on est dans un courant où les gens redemandent, on dirait aussi, parce qu'on regarde les demandes qui sont faites à droite et à gauche, et ce qu'on voit, bon, c'est sûr que les groupes de pression, est-ce qu'ils sont représentatifs de toutes les strates de notre société? Je ne crois pas, mais de plus en plus, on demande toujours au gouvernement de légiférer. Le gouvernement, lui, bon, répond à ces demandes, mais effectivement, la responsabilité, puis moi, je crois beaucoup plus en l'aspect comportemental que moral, justement, dans l'exécution de la droite. Et d'ailleurs, ça a été difficile même pour lancer cette émission. On s'est dit, est-ce qu'on utilise le mot de droite? Puis là, nouvelle droite, même encore là, on conserve encore le mot droite, et là, ça devient difficile. On parle de liberté, même encore là, quand on utilise la liberté comme étant le grand mot, là, la liberté, pas la liberté d'expression, mais encore là, on touche aux valeurs, veut pas, quand on utilise ces mots-là.
Il y a quelque chose de moral ici. Moi, je pense qu'une véritable défense d'une position de droite doit inclure pas juste l'efficacité économique, mais doit aussi et tout le bien-être qui vient de la liberté économique en termes de productivité, mais aussi de créativité.
Mais comment créer un consensus justement par rapport à des valeurs qui sont intrinsèques?
Il n'y a pas de consensus et ça doit pas être le but selon moi. Pour prendre le pouvoir.
Mais pour mettre en place des mesures ou orienter des changements.
Écoute, dans le contexte du Québec actuel, un parti de centre-droit comme semble vouloir l'être l'ADQ, si on regarde le bilan quand même assez petit de Gérard Deltel, il a été là juste un an, puis c'est surtout en fin d'année qu'il est intervenu. Mais s'il continue sur la même ligne, admettons qu'on a un parti de centre-droit résolument modéré à droite. Ça prend 40% pour être majoritaire, là. T'as pas besoin d'un consensus. Moi, le consensus, la solidarité, c'est des thèmes de gauche. C'est des thèmes où finalement, ça suggère l'idée de consensus que s'il y a des désaccords marqués, ceux qui seraient identifiables comme étant responsables du désaccord ont tort. Puis dans le contexte qu'il note, ceux qui veulent le désaccord, c'est ceux qui veulent briser le moule de la pensée unique qui est à gauche. Donc, c'est les gens de droite qui sont des empêcheurs de tourner en rond. Donc, moi, je veux une société où on débat. Je veux pas que tout le monde soit d'accord avec moi. Je veux pas convaincre Jean-Paul Lauzon. Je veux convaincre...
Mais il faut convaincre quand même cette masse critique. Là, oui. Ce 40%-là, puis on sait, on sonde, là, et on n'a pas encore cette masse critique.
Pas sûr. Si tu regardes le sondage sur les principes, les valeurs des Québécois qui a été fait dans Le Devoir au début décembre, où on demandait d'abord êtes-vous à gauche, à droite, l'immense majorité des gens se situent au centre, et ça se comprend. Si gauche-droite, c'est des philosophies politiques, la grande majorité des gens qui en font pas une passion, qui n'ont pas passé beaucoup de temps à se définir une idéologie cohérente, ils vont être au centre, donc ils ont été cohérents dans leurs réponses. Maintenant, quand on leur pose des questions sur « pensez-vous qu'il devrait avoir du privé en santé? » On est la province au Canada où il y a le plus de gens qui disent oui. Et en passant, comme j'avais commencé à le suggérer tout à l'heure, la place du privé en santé pourrait prendre toutes sortes de formes.
De formes différentes.
Et n'exclut pas que le gouvernement soit présent aussi. Moi, je vais te dire, dans ce sens-là, dans cette mesure-là, je suis de gauche, je n'accepterais pas, étant donné la richesse moyenne per capita au Québec et au Canada, j'accepterais pas que 5 ou le 10 ou le 15% des Québécois les plus pauvres n'aient pas un accès complet à des soins de santé
mais
de base.
C'est justement la difficulté.
Moi, je l'accepterais pas.
Parce que quand on se campe dans la position de droite, ben les gens de gauche imaginent qu'on ne peut pas avoir ce discours-là où on demande cette intervention-là de l'État pour justement pallier à ces... Parce que, tu sais, c'est toujours le cœur est à gauche et la tête à droite.
La tête à droite. Mais alors là, faisons une nuance parce qu'on veut clarifier gauche-droite. La tendance des gens de droite par rapport à l'intervention de l'État... Puis le modèle suédois, en ce sens-là, il est bien. Les changements, la transformation du modèle suédois est très éclairante. D'abord, on peut avoir des objectifs communs entre gens de droite et gens de gauche, mais les gens de droite vont vouloir que l'intervention de l'État exploite le dynamisme de la concurrence, donc du secteur privé. Donc, je disais tantôt, des hôpitaux peuvent être entièrement privés, mais ceux qui utilisent les services sont assurés par l'État. Donc, tu te prives pas du dynamisme du privé, et tout en ayant une intervention de l'État. Et aussi, les gens de droite, de la nouvelle droite au Québec en particulier, ont pas le réflexe de mettre sur pied des programmes mur à mur où tout le monde, qui vise tout le monde, tu sais, l'assurance.
Ouais, l'universalité.
L'universalité versus le fait de viser des clientèles dans le besoin puis de bien servir ces clientèles-là plutôt que de mal servir tout le monde. Moi, j'ai rien contre le fait que le Québec, que l'État québécois me taxe, entre autres, pour redistribuer ça à des gens qui n'ont pas le moyen d'avoir accès aux soins de santé. Ce contre quoi j'en ai, Steve, c'est qu'en plus de ça, ils me taxent pour dire « je vais prendre en charge la planification de tes propres soins de santé, je te donnerai pas je vais enlever ton choix, je t'enlève le droit de t'assurer chez un assureur privé, parce que c'est ça la situation actuelle, ça vient de la loi canadienne sur la santé. » Donc, on fait du mur à mur, on élimine le dynamisme du privé, de l'entreprise privée, de la concurrence, puis on fait du mur à mur. C'est deux erreurs, ça. On pourrait partager le même objectif, c'est-à-dire que tous les Québécois aient accès à des soins de santé de qualité, peu importe leur revenu, mais tout en ayant recours au dynamisme du privé pour que ça se fasse de manière efficace, qu'on ait accès à des soins de qualité rapidement, puis que ce soit les clientèles les mieux ciblées qui soient privilégiés par les programmes gouvernementaux, puis que ceux de la classe moyenne, puis des gens qui ont les moyens de faire des choix économiques, ben qui se débrouillent par eux-mêmes au gré de leurs besoins puis de leurs priorités.
Mais on sent que effectivement, là, je pense que tout ça va nous amener dans les prochaines années à voir un changement qui va s'opérer. Puis la nouvelle droite, que moi j'ai encore de la misère à définir comme nouvelle droite ou droite.
Ben,
ou...
je reviendrai.
Oui, je pense qu'il faudrait définir ça parce qu'effectivement, il existe. Tantôt, on a parlé de plusieurs thèmes. Puis aujourd'hui, la droite tend aussi à créer ses pans, ses différences. Donc, des gens qui disent.
C'est une famille. C'est certain.
Ça. C'est une grande...
La gauche est une grande famille.
Ouais,
la droite est une grande famille. Ça, c'est certain. Mais je pense que le nerf, notre champ de bataille qui fait en sorte qu'on va remporter des batailles, c'est le fait que sur le plan économique, sur le plan fiscal, on a intérêt d'abord à ce que l'État n'écrase pas économiquement les individus, les entreprises. Et ce qui crée du bien-être, l'instrument qui produit le bien-être, la créativité, les nouveaux produits, les nouveaux médicaments, c'est le privé, c'est pas les bureaucrates, c'est pas les fonctionnaires, et ça se fait généralement dans un marché du travail où qui récompense les employés les plus dynamiques, les plus productifs, et donc où le syndicat ne vient pas étouffer l'initiative puis le fait de récompenser ceux qui produisent plus que d'autres, sans nécessairement écraser ceux qui sont moins productifs. Mais si je te donne le même salaire pour produire beaucoup ou pour produire peu, pour travailler beaucoup, pour produire, travailler peu, la tendance des gens, ça va être de travailler peu puis de produire peu. Donc, si tu veux que les gens soient productifs, créatifs, innovateurs, il faut qu'ils soient récompensés pour ça. Ça, c'est ça le génie du secteur privé, de la concurrence. Pas de l'entreprise privée, mais du fait que les entreprises privées sont en concurrence, que les employés sont en concurrence et sont récompensés pour leur bon coup. C'est ce qui nous a amené où nous sommes. S'il y a tant d'argent à redistribuer au Québec, c'est parce qu'il y a un secteur privé qui l'a créé, cette richesse,
oui.
Et si on a besoin de plus de richesse au Québec pour maintenir le niveau de vie qu'on veut avoir, ben il faudra miser sur les forces vives, créatives, innovatrices de la concurrence, des libres marchés et des libertés individuelles. Il faut que ça soit encourageant, pour entre autres, pour des jeunes Québécois de créer des entreprises. Il ne faut pas que ce soit étouffé par des réglementations, puis il faut qu'ils soient récompensés. Il ne faut pas qu'on vienne chercher en taxation le produit de leur labeur.
Non, le fruit. Mais pour moi, il y a cinq mots. Liberté, responsabilité, compétition, efficacité, efficience, productivité. Donc, c'est des termes qu'on va devoir utiliser pour cette nouvelle droite.
Il ne faut pas avoir peur de ça.
C'est ça. Il ne faut pas avoir peur d'aborder.
Il ne faut pas avoir peur de ça à l'école non plus.
Non, effectivement.
Parce que là, qu'on le veuille ou non, on est en concurrence avec tous les pays du monde. C'est 2011. On est au 21e siècle et c'est la réalité des choses. Alors, il faut que nos jeunes Québécois soient concurrentiels avec les jeunes Chinois. Puis il faut qu'ils soient là, mais il faut qu'ils soient dans 20 ans aussi.
Hey, merci, Frédéric. Donc, merci beaucoup.
On s'en reprendra.
Oui, on va s'en reprendre. Donc, soyez des nôtres la semaine prochaine pour l'émission Connaître la suite. J'ai oublié tout à l'heure de vous annoncer notre Twitter, donc qui est Connaître suite. Donc, si vous avez des commentaires après l'émission ou cette semaine, envoyez-nous ça sur notre Twitter, donc Connaître suite. Je vous invite d'ailleurs sur le site Internet, tout est là, au www.connaitrelasuite.com. Donc ici, Steve Martineau, je vous souhaite une bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine.
Bonsoir tout le monde.